Les deux phénomènes, en fait, inflammation et surprésence de radicaux libres, en fait, peuvent s'auto-entretenir mutuellement. C'est hyper important d'avoir, en fait, un équilibre entre les deux, parce que si, par exemple, tu as des radicaux libres qui sont en excès par rapport aux antioxydants, bah, c'est là, justement, qu'on va créer du stress oxydatif. Bah, finalement, ce qui va rester, ça va être les radicaux libres qui vont venir attaquer tes cellules, qui vont dégrader, donc, du coup, ta mitochondrie, on en parlait à l'instant, qui vont, donc, du coup, toucher aussi l'ADN de la mitochondrie, l'ADN mitochondrielle. Et donc derrière, bah, ça va perturber les cellules, ça va générer en fait, du coup, des problèmes de division, donc des cancers. Etc. Effectivement, il ne faut pas oublier qu'à la base, encore une fois, les radicaux libres, c'est quelque chose de bénéfique. Le corps en a besoin, type trop de compléments alimentaires, type antioxydants. Tu vas vraiment poser un problème à ton corps, c'est que tu vas l'empêcher en fait, d'avoir ce stress physiologique nécessaire. C'est avec ça qu'il y a même des études qui ont dû être arrêtées parce que le taux de décès était important. C'est-à-dire qu'effectivement, des personnes qui avaient des cancers du poumon, on leur donne des compléments alimentaires d'antioxydants, en fait, le décès augmentait. Quoi. Donc on se dit, bon là, on arrête parce qu'on est en train de tuer des gens littéralement. Quoi.
Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode.
L'équipe de 1000% prend soin de sa santé et c'est avec Lucie. C'est clairement un outil qui est à 1000% aligné avec nos visions. Comprendre son corps en profondeur pour mieux agir au quotidien. Avec Lucie, tu as un accès à une analyse ultra complète de ta santé. Plus de 110 biomarqueurs analysés répartis sur 11 grands systèmes du corps. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une prise de sang, ils vont plus loin avec analyse urinaire, salivaire pour donner une vision vraiment globale. Il y a aussi une intelligence artificielle qui croise tes résultats, ton questionnaire de santé et même tes objets connectés. Et derrière, tu peux prendre rendez-vous avec un médecin si tu veux aller plus loin. Bref, c'est un outil pour comprendre, optimiser, suivre ta santé dans le temps. Si ça t'intéresse, tu peux aller directement sur leur site lucis.life et en plus de ça, tu bénéficies d'un code de réduction avec le code PODCAST1000. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et retour au podcast.
Allez, bonjour à tout le monde. Bienvenue pour ce nouvel épisode de 1000% Podcast, le podcast où on parle santé, sport et nutrition. Aujourd'hui, on va parler du stress oxydatif, également de l'inflammation. Souvent, on peut avoir tendance à mélanger les deux. Quelles sont leurs causes? On va s'intéresser aux sportifs d'endurance notamment où il va y avoir pas mal justement de stress oxydatif, mais c'est aussi le cas pour chacun d'entre nous. Donc on a la chance de recevoir Wilfried qu'on a croisé au sommet de l'hypersanté. Donc c'était vraiment un plaisir de se croiser ensemble. Je te laisserai te présenter brièvement. Je vais juste énoncer le sommaire. Donc on va parler de ce stress oxydatif, de l'inflammation, la différence entre les deux, comment le mesurer, est-ce que justement il y a des marqueurs à surveiller. On verra ces phénomènes-là avec les protections du corps, est-ce qu'ils peuvent parfois malheureusement être déficientes. Et à la fin, on verra bien sûr les solutions, que ce soit par l'alimentation ou via la complémentation. Bien sûr, accompagné de Pacton de la team 1000%, comment ça va?
Mais super, très content de parler d'inflammation. Et il y a des inflammés de partout autour de nous, donc c'est super.
Eh bien, on va laisser la parole à Wilfried pour se présenter. On a déjà fait un épisode ensemble sur l'inflammation spécifiquement. Et aujourd'hui, on va quand même s'intéresser beaucoup plus au stress oxydatif. Donc Wilfried, je te laisse la parole.
Bah, merci les gars pour votre deuxième invitation. Du coup, c'est vrai que c'est la deuxième fois qu'on fait un podcast ensemble. Donc moi, c'est Wilfried Launay. J'ai créé un média santé qui s'appelle BeMove. Et donc, je suis coach en nutrition depuis maintenant 12 ans. Je me suis spécialisé en hormonologie fonctionnelle et en inflammation surtout. J'ai écrit un livre aux éditions Thierry Soucard qui s'appelle « Le guide complet de l'alimentation anti-inflammatoire ». Et voilà, c'est un sujet qui me passionne maintenant depuis très longtemps et on va en parler en détail. Et si jamais des gens arrivent à maîtriser un peu leur inflammation, eh bien, ils vont retrouver une santé, une belle santé. Et surtout, ils vont essayer de vivre longtemps et en bonne santé. La partie longévité aussi, c'est un sujet qui m'intéresse.
Parce que le premier épisode, en fait, tu étais venu pour le vieillissement. Je ne sais pas si tu te souviens, Alexandre, on faisait à l'époque des couvertures de podcasts avec l'IA où on essayait de se vieillir. Et donc c'était un super épisode, si vous voulez aller écouter, c'est sur le vieillissement, il faut juste aller un petit peu dans, peut-être il y a un an, deux ans peut-être.
Ça, il y a un an, ouais, j'avais regardé.
On mettra ça de toute façon en description avec également le livre de Wilfried pour nos auditeurs s'ils veulent après derrière retrouver cet épisode. Soyez indulgents avec nous, c'était le tout début, donc peut-être qu'il y a la qualité sonore et les miniatures qui sont peut-être pas comme maintenant, mais on a essayé de travailler depuis. Donc pour commencer sur ce sujet-là, c'est vrai qu'on avait parlé inflammation. Là, aujourd'hui, on va parler de stress oxydatif. Pour les auditeurs, peut-être qu'ils ne connaissent pas la différence entre les deux. Comment tu pourrais un petit peu nous synthétiser tout ça?
Ouais, alors c'est bien effectivement de commencer par les bases. Commençons par le stress oxydatif, par exemple. Donc, le stress oxydatif, c'est un déséquilibre, en fait. C'est-à-dire que dans le corps, il y a beaucoup d'équilibre. Ça, c'est une des bases de la santé. Et notamment, il y a une sorte de dualité entre ce qu'on appelle les radicaux libres et les antioxydants. Les radicaux libres, qu'on appelle aussi en anglais les ROS. Les radicaux libres, en fait, c'est... J'aime bien assimiler ça en fait à des petits missiles, parce qu'à la base en fait les radicaux libres c'est quelque chose qui est très bénéfique pour le corps, ça c'est notamment pour le système immunitaire, et on peut assimiler ça en fait une sorte de petit missile qui va venir attaquer les cellules, les envahisseurs, et qui est en quantité physiologique et indispensable pour le corps. On en parlera pendant ce podcast, je pense, de l'intérêt hyper important des radicaux libres. Et en fait, on a des radicaux libres qui sont produits naturellement par le système immunitaire, et puis il y en a aussi qui vont arriver par l'extérieur, par la pollution, par le tabac, par plein de choses qui viennent de l'extérieur. Et pour ça, en fait, le corps, il a l'opposé des radicaux libres qui s'appelle donc les antioxydants. Les antioxydants, c'est des molécules qui vont venir en fait interagir avec ces radicaux libres pour les neutraliser. L'image que j'aimais donner, en fait, c'est comme sur les avions de chasse, ils ont des flares qui lâche derrière eux en fait pour que les missiles ne touchent pas l'avion, mais attaque le flair en fait. C'est une sorte de leurre en fait. Les antioxydants, on pourrait un peu imaginer ça comme ça en fait. C'est une sorte de leurre pour protéger en fait les cellules, pour protéger en fait les cellules de la peau, les cellules de nos cellules, etc. Les cellules importantes du corps, etc. Donc c'est hyper important d'avoir en fait un équilibre entre les deux, parce que si par exemple t'as des radicaux libres qui sont en excès par rapport aux antioxydants, c'est là justement qu'on va créer ce qu'on appelle du stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est quand tu as trop de radicaux libres par rapport à ta capacité d'antioxydants. En fait, ça, c'est important à comprendre ça. Donc, les antioxydants, on a des endogènes, donc c'est-à-dire qui sont produits naturellement par le corps, et puis des exogènes, en fait, qui vont être apportés par l'alimentation, par des compléments alimentaires. Ça aussi, on en reparlera en détail, je pense. Voilà, donc ça, c'était pour les radicaux libres et le stress oxydatif. Et donc derrière, on a aussi l'inflammation. L'inflammation, c'est quelque chose qui est un peu plus générique. L'inflammation aussi, elle est naturelle, tout comme les radicaux libres. Le corps en a besoin en fait pour se soigner. Si par exemple tu as une blessure, si tu te coupes en faisant la cuisine, tu te coupes le doigt avec un couteau, en fait l'inflammation va venir tout simplement réparer les dégâts, genre refaire en sorte que tu cicatrises, détruire les envahisseurs. Bref, l'inflammation, en fait, elle sauve un peu la vie tous les jours. C'est grâce à ça, notamment, que tu peux guérir, on va dire. Et là aussi, en fait, il y a un équilibre à avoir. Il faut que l'inflammation, elle soit en quantité raisonnable. Quand elle est trop présente, lorsqu'elle est présente de façon continue et de façon sans s'arrêter. En fait, on parle d'inflammation chronique. Et on sait que quand on parle de santé, qu'on parle de chronicité, c'est pas bon signe en général, c'est pas bon ménage. Donc voilà, l'inflammation en fait c'est quelque chose en fait qui est très présent en fait aujourd'hui, comme tu disais Vincent, dans le monde moderne, pour plein de raisons différentes. On en reparlera, je pense, dans les prochaines minutes.
Est-ce qu'on pourrait dire que le stress oxydatif, ce serait comme tu disais, les missiles en fait c'est des moyens de se défendre en partie de notre système immunitaire. On va voir qu'il y a différentes productions de stress oxydatif. Et est-ce que cette inflammation serait pas de la communication, tu sais, il y a beaucoup de voies de signalisation de l'inflammation. Est-ce que c'est pas, un message de guerre, par exemple, le stress oxydatif serait les armes, et puis l'inflammation serait pour propager cette information.
T'as tout à fait raison. D'ailleurs, en fait, les deux sont souvent liés. En fait, c'est pour ça qu'on parle d'oxy-inflammaging. On en parlera aussi. Hein. C'est-à-dire que les deux phénomènes, en fait, inflammation et surprésence de radicaux libres, en fait, peuvent s'auto-entretenir mutuellement. Ça, c'est quelque chose qui est assez courant. Et effectivement, il ne faut pas oublier qu'à la base, encore une fois, les radicaux libres, c'est quelque chose de bénéfique. Le corps en a besoin. Si par exemple, tu as un virus qui rentre dans ton corps, en fait, les cellules immunitaires, en fait, vont utiliser les radicaux libres pour pulvériser en fait le virus ou la bactérie ou tout ce qui est élément pathogène. Donc à la base, en fait, c'est comme tu dis, effectivement, des missiles. Et ces missiles, en fait, il faut qu'ils soient en quantité physiologique. Ça, c'est important, la quantité physiologique.
Là, on parle donc de stress oxydatif, on parle de radicaux libres, mais pour nos auditeurs, sur quoi ils vont agir au niveau de la cellule, justement? Est-ce qu'on pourrait rentrer un peu plus en précision pour des choses concrètes pour nos auditeurs en disant, ah oui, ça peut, si cet excès justement de stress oxydatif est trop important, il peut y avoir des causes assez graves. Est-ce qu'on pourrait donner justement des exemples de l'impact de ces radicaux libres en excès?
En fait, tu vois, si on reprend l'image des missiles, à la base, ces missiles sont faits principalement pour tuer des éléments pathogènes. Si jamais ils sont en excès, en fait, et donc les défenses sont en minorité, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'antioxydants, du coup, ces missiles, en fait, peuvent toucher nos cellules. Et donc, ça peut provoquer plein de dégâts, en fait, dans ton corps. Donc, des cellules saines qui vont mourir parce qu'elles sont attaquées par des éléments qui sont censés les protéger, on va dire, normalement. Tu vas avoir, en fait, une aggravation de certaines pathologies. Tu vas avoir un vieillissement prématuré. Tu vas avoir comme ça, en fait, clairement, quelque chose qui va être délétère, en fait, sur le long terme, en fait, on parlait de longévité. Clairement, quelqu'un qui a du stress oxydatif de façon chronique va vieillir prématurément, parce qu'en fait, ces cellules, simplement, elles meurent plus tôt que prévu. En fait, c'est comme si en fait, tu avais une sorte d'élément pathogène dans le corps qui était tout le temps présent en fait, et qui abîme tes cellules. Et au final, tu vieillis plus vite.
C'est quoi? Ils vont attaquer la mitochondrie plus précisément? Et puis ils vont attaquer quelle partie justement de la cellule?
Ouais, il y a plusieurs parties de la cellule qui vont attaquer. Souvent, c'est la surface de la cellule, la partie lipidique, qui va être attaquée. Et puis la mitochondrie, effectivement, peut être attaquée aussi. Hein. La mitochondrie, il faut savoir qu'elle est à la fois la cible et à la fois la productrice. C'est-à-dire qu'en fait, la respiration en tant que telle produit des radicaux libres. Ça, il faut le savoir aussi, hein, c'est que le fait de respirer, tu produis des radicaux libres. La mitochondrie est génératrice de radicaux libres, d'où la présence des antioxydants pour les contrecarrer. Et c'est ça un peu le paradoxe aussi, c'est que finalement, l'oxygène, parce qu'en fait, ouais, quand on parle de radicaux libres, en fait, il y a deux espèces de radicaux libres. Il y a l'espèce réactive de l'oxygène et de l'azote, mais on va dire que les oxygènes, c'est les plus connus. Ben en fait, l'oxygène, il est à la fois forcément indispensable pour la vie. En fait, sans oxygène, tu meurs en quelques minutes. Mais aussi, en fait, c'est une partie de ce qui va te tuer, en fait, parce qu'on considère que 2% de l'oxygène que tu respires va finir en radicaux libres, en fait. Donc, c'est un des paradoxes de la vie, en fait. C'est que le fait de vivre, en fait, ça te fait mourir à petit feu.
Juste pour que tu précises un peu la respiration mitochondriale, parce que là, il y a peut-être des gens qui ont lâché la respiration, ça produit du stress oxydatif. Rentrer un petit peu plus.
En fait, donc, ça peut devenir un peu technique, mais pour faire très simple, non, du coup, la mitochondrie, c'est donc un des organes importants de la cellule. C'est, comme on dit souvent, la petite centrale énergétique de la cellule, là où se produisent des réactions hyper importantes, comme le cycle de Krebs, que tous les gens qui font un peu de biologie connaissent bien. Quelque chose qui est très compliqué. Et dans ce processus, en fait, long et compliqué, en fait, il y a génération donc d'ATP. Qui est donc la molécule élémentaire de l'énergie pour la cellule, et en fait un des déchets de cette respiration, c'est des radicaux libres. En fait, pour donner une image, c'est comme si tu prenais le moteur d'une voiture, tu vois, t'as des gaz d'échappement qui sont produits, et tu peux pas, sur une voiture thermique, tu ne peux pas l'empêcher. En fait, c'est comme ça, c'est construit comme ça. En fait, si tu bloques la sortie du pot d'échappement, en fait, ton moteur il cale. Bah, c'est presque pareil, en fait, sur la mitochondrie. En fait, tu vas avoir production d'énergie d'un côté, mais production aussi de déchets de l'autre. Et c'est ça, en fait, qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est inné, en fait, à la respiration mitochondriale.
Donc, on a vu la différence entre l'inflammation et le stress oxydatif. Et maintenant, quelles sont les causes, justement, qui vont pousser vers l'un ou vers l'autre? Ou est-ce que les deux sont, au final, fortement reliés?
Alors, les deux sont reliés. Souvent, on part du principe que c'est le stress oxydatif qui va commencer, on va dire, à provoquer des problèmes. Et ensuite, ça va être amplifié par l'inflammation. Puisqu'en fait, on a des cercles vicieux, comme beaucoup souvent en biologie. Tu as des cercles soit virtueux, soit vicieux qui se mettent en place. Là, en l'occurrence, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu vas avoir un excès de radicaux libres dans le corps, donc du stress oxydatif, ça va activer en fait ton système immunitaire. Ça va activer des voies de l'inflammation, comme NFKB, par exemple. Et ça, en fait, pour faire simple, quand le système immunitaire commence à s'activer, on l'a vu, en fait, le système immunitaire, il a, en fait, de base, en fait, la possibilité d'envoyer ses petits missiles, ses radicaux libres. Donc, plus le système immunitaire, il est activé, plus tu as du stress oxydatif. Mais plus tu as du stress oxydatif, du coup, plus ça entraîne de l'inflammation. Et c'est ça, du coup, tu vois, qui va faire que le cercle va s'auto-amplifier. Alors, on va donner un exemple pour être très concret, même si je pense que ça va être la très grande minorité des gens qui nous écoutent. Si on prend l'exemple, de la cigarette. La cigarette, en fait, quand tu fumes, tu injectes dans ton corps, en fait, des milliards et des milliards de radicaux libres. D'accord. Je crois que c'est 10 puissance, une bouffée de cigarette, je crois que c'est 10 puissance 11 radicaux libres. Je sais pas si tu te rends compte, c'est genre monstrueux, quoi, en fait. Et tous ces radicaux libres, en fait, ils vont venir, exposer, en fait, en contact avec tes cellules. Donc, forcément, il va y avoir des dégâts. Heureusement, le corps a ses défenses, donc les antioxydants. Mais tu vois, quand tu fumes, par exemple, eh ben, en fait, ça épuise tes réserves d'antioxydants. C'est-à-dire, en fait, que t'as le bouclier, en fait, le bouclier, on va dire qu'il est usage unique, pour faire très simple. Et donc, tous les boucliers que t'avais en stock, ben, en fait, ils vont vite péter. Et donc, finalement, ce qui va rester, ça va être les radicaux libres, qui vont venir attaquer tes cellules, qui vont dégrader, donc, du coup, ta mitochondrie, on en parlait à l'instant, qui vont, donc, du coup, toucher aussi l'ADN de la mitochondrie, l'ADN mitochondriel. Et donc, derrière, ça va perturber les cellules, ça va générer, en fait, du coup, des problèmes de division, donc, des cancers, etc., etc. Et derrière, forcément, comme ces cellules sont abîmées, ça va activer la voie de l'inflammation, ce qu'on disait à l'instant. Et donc, l'inflammation, elle va être présente, elle va rester, parce que quelqu'un qui fume, en général, il fume pas qu'une cigarette, il fume plusieurs cigarettes par jour. Donc, l'inflammation, elle va rester. C'est comme ça, du coup, qu'on va avoir de l'inflammation chronique qui va être présente. Donc, tu vois, en fait, tout a commencé par des radicaux libres en surquantité. Et ensuite, l'inflammation chronique, elle est là, elle est présente, elle accélère, on va dire, un peu le processus. Donc, souvent, ça commence comme ça. C'est surexposition radicaux libres et derrière, l'inflammation qui s'installe aussi, quoi.
J'ai fait le DU de micronutrition de professeur Castronovo qu'on salue, Vincenzo, et j'ai appris un truc sur la fumée de cigarette, c'est qu'il y a une grosse charge de stress oxydatif au niveau de nos poumons. Il y a aussi un phénomène de, je sais pas si tu le sais, Sal Wilfried, de solidarité tissulaire, qui fait que il y a une grande zone de guerre en fait au niveau de nos poumons, et donc notre corps va aller puiser ses réserves d'antioxydants à travers le corps, et donc ça va éteindre le feu au niveau des poumons.
Tout à fait.
Mais par contre, il va avoir une déplétion, il va avoir une diminution de nos défenses antioxydantes sur les autres tissus. Donc potentiellement, c'est pour ça que les gens sont ridés quand ils vont fumer. C'est pour ça que ça peut augmenter des douleurs à travers le corps. C'est que on vient taper dans notre réserve d'antioxydants à travers le corps.
Exactement, ouais. Parce qu'encore une fois, la quantité d'antioxydants, elle est limitée. Et quand une zone, en fait, elle est appauvrie en antioxydants, du coup, les autres qui compensent, qui leur envoient, on va dire, entre guillemets. Et forcément, sur le long terme, en fait, bien, tes réserves, elles s'épuisent, en fait, quoi. Et c'est comme ça que, effectivement, tu vas avoir un niveau inflammatoire qui va augmenter de façon très considérable. De toute façon, la cigarette, moi, j'ai pris un exemple un peu extrême volontairement, parce que tu me demandais, Alex, des exemples. Donc, la cigarette, c'est un exemple un peu extrême. Mais tu peux aussi avoir la pollution, par exemple, la pollution extérieure. Tu peux avoir aussi ce que tu ingères, par exemple, certains composés. Par exemple, tu vois, quand tu consommes des aliments qui sont trop grillés, par exemple, trop cuits, c'est riche en ce qu'on appelle en AGE, les composés avancés de la glycation. Bah ça, c'est pareil, ça va une fois dans le corps, en fait, ça active en fait des connecteurs sur la cellule qu'on appelle les connecteurs RAGE, R-A-G-E, et qui vont derrière en fait aussi pareil activer des voies en fait d'inflammation et de création de radicaux libres. Voilà, c'est que globalement aujourd'hui le monde moderne il est quand même relativement toxique et ça a tendance justement à augmenter notre stress oxydatif, ouais, clairement.
Si on prend un peu de recul, c'est finalement ce glucose et cet oxygène, deux substrats essentiels à la vie, qui vont produire en fait des processus liés au vieillissement. Et donc c'est comme tu disais au début, hein, c'est tout est une question d'équilibre, d'homéostasie pour qu'on soit en santé.
Exactement. C'est intéressant parce que tu vois, je parle effectivement de l'oxygène, mais le glucose aussi en fait. Hein, le glucose, il va venir réagir avec des protéines. Ça va faire des protéines glyquées justement. Et plus tu as de glucose dans le sang, du coup, plus ce phénomène il a lieu, donc plus tu vieillis prématurément. On pourrait se dire, dans l'idéal, on enlève le glucose, sauf sans glucose, tu meurs. pareil, sans oxygène. Donc, en fait, c'est ça. C'est, comme tu dis très bien, c'est une histoire d'équilibre, d'homéostasie, en fait. Hein, c'est pour ça qu'en biologie, on parle beaucoup d'homéostasie, d'équilibre. Le corps a naturellement tendance à revenir à l'équilibre. Mais le problème, en fait, c'est que quand tu es surexposé, en fait, à des éléments qui te déséquilibrent, le corps a pathologiquement du mal à revenir à l'équilibre, en fait. Et donc l'homéostasie, en fait, on la quitte et donc on quitte la santé, en fait.
Là, on parle de choses assez négatives, parce qu'on parle d'alcool, on parle de peut-être de tabac, on parle de pollution. Nos auditeurs disent oui, mais moi ça m'intéresse pas. Au final, je fais du sport, je suis à 1000%. Mais justement, le sport peut être aussi générateur de radicaux libres. Donc
tout à fait.
Est-ce que tu pourrais justement nous parler de ça, de cet effet de l'activité physique sur la production de radicaux libres?
Ouais. Et là, justement, on arrive sur un côté hyper intéressant qui va rester dans le cadre physiologique quand c'est bien fait, justement, et qui peut dégénérer si c'est mal fait. C'est qu'effectivement, la suractivité musculaire, donc soit pour du renforcement musculaire ou de l'activité cardio sur la longue durée, comme par exemple la course à pied, etc., va générer en fait des radicaux libres aussi. En fait, on va avoir une création de stress, on va dire, localement, et qui est bénéfique, en fait. Et c'est très bénéfique. Le corps en fait a besoin pour notamment créer de la masse musculaire pour l'anabolisme de la présence de radicaux libres en fait. Et on en reparlera aussi après, c'est pour ça que ça peut être très délétère de prendre des antioxydants en version complément alimentaire. On en reparlera je pense un peu plus tard. Mais en fait, il faut ce stress qui est donc ponctuel, localisé et physiologique pour envoyer un signal au corps qu'il devienne meilleur, en fait, pour faire très simple. Donc, tu vois, quand tu fais du renforcement musculaire, quand tu fais des biceps curl, tu vas venir casser des fibres musculaires, tu vas suractiver ton muscle, et derrière, tu vas avoir une génération d'inflammation localisée. Et ça, en fait, ce signal-là va dire au corps, en fait, en gros, deviens plus fort. Voilà. Et ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, ça fait partie en fait du stress bénéfique ou de l'hormèse que tu connais bien, Vincent, toi qui es assez expert sur notamment les bains froids. C'est le même principe en fait, c'est que le stress localisé, ponctuel, maîtrisé permet au corps en fait de devenir plus fort en activant l'hormèse. Justement, l'hormèse étant la fameuse phrase qui ne nous tue pas nous rend plus fort en fait. Donc oui, l'activité physique est génératrice de stress et d'inflammation et c'est bénéfique.
Mais est-ce qu'au bout d'un moment, on peut dépasser cette frontière et être dans une zone qui va au contraire être négative pour notre santé ? Est-ce que c'est possible ?
Tout à fait. Et c'est là justement où tu vas avoir par exemple le cas du surentraînement. Le surentraînement, en fait, toi, tu vas avoir en fait derrière, dès que tu as la génération de stress oxydatif, de radicaux libres, donc il faut laisser en fait le corps le temps de supporter ce stress en fait, donc d'où la notion de récupération. La récupération, c'est au-delà du côté purement physiologique, d'un point de vue biologique, c'est laisser au corps en fait le fait d'apporter les molécules nécessaires pour assurer la reconstruction cellulaire, pour détruire les radicaux libres qui ont été produits peut-être en trop grande quantité, etc., etc. Maintenant, quelqu'un qui s'entraîne tous les jours de façon un peu trop intensive, en fait, il va pas laisser le temps justement au corps de faire cette réparation. Tu vas avoir en fait là aussi un déséquilibre toi, entre la production de radicaux libres liés à l'activité physique et tu vas empêcher le corps en fait de faire son boulot de réparation. Donc ce qui va rester finalement c'est que de la dégradation. Et en fait ce qui va se passer c'est que sur le moyen voire le long terme en fait tu vas empêcher tes muscles de se construire, tu vas entraîner du coup de l'inflammation, donc de la fatigue. Et en fait on connaît bien ça, hein, c'est le syndrome de fatigue chronique du sportif qui est trop entraîné, qui est trop irrespectueux de son corps, on va dire. Et derrière, c'est totalement contre-productif. Le sport, en fait, est censé être bénéfique pour la santé. Et là, il devient pathologique.
Donc, est-ce qu'on pourrait résumer ça avec quand même trois niveaux ? Est-ce qu'on pourrait partir de la base qu'il y aurait un niveau quand même génétique où on n'aurait pas la même réponse à forcément un stress par rapport à ses capacités génétiques? Est-ce qu'ensuite il y aura un niveau plutôt entraînement, c'est-à-dire que plus on s'est entraîné, plus on a augmenté notre capacité à produire peut-être des antioxydants? Et un troisième niveau où ça serait peut-être l'alimentation justement qui viendrait jouer et doser sur cet équilibre-là?
Tout à fait, c'est une bonne définition. Globalement, en fait, je pense qu'il faut laisser en fait le corps faire. On va dire globalement, il sait comment se réparer, il sait quoi apporter. Là où ça devient effectivement problématique, c'est quand tu as une grande volumétrie de d'entraînement, parce que voilà, tu veux préparer par exemple un marathon ou tu as des objectifs précis. Dans ces cas-là, tu peux sortir un peu de ce cadre-là et dans ce cas-là, des petits coups de main extérieurs, comme tu disais, par rapport à l'alimentation, voire des compléments alimentaires vont aider. Parce qu'effectivement, on parlait d'antioxydants endogènes, donc le corps, il en produit, mais parfois, il faut lui donner un coup de main. Il faut l'aider, en fait, donc ça va être par l'alimentation, donc notamment les polyphénols, le resvératrol du raisin, tout ce qui est voilà les légumes verts par exemple qui sont aussi extrêmement riches en antioxydants. Et puis même parfois ça ne suffit pas, en fait il faut parfois dans certains cas apporter un petit coup de pouce via des compléments alimentaires, mais ça c'est absolument ciblé, parce que le problème c'est que si jamais tu apportes trop de compléments alimentaires type antioxydants, tu vas vraiment poser un problème à ton corps, c'est que tu vas l'empêcher en fait d'avoir ce stress physiologique nécessaire. Je vais prendre un exemple parce que tu vois j'ai fait des recherches récemment dessus là. Tout le monde, je pense, connaît le resvératrol. On trouve dans le raisin notamment. Bon, le resvératrol, on le considère comme un bon antioxydant nécessaire, etc. Et c'est vrai qu'à dose physiologique, par exemple, si tu consommes du raisin, c'est intéressant. D'ailleurs, ça fait aussi partie, tu vois, le régime méditerranéen, quand on dit par exemple consommer un verre de vin rouge par-ci par-là. Je pense que la présence de resvératrol dans le vin rouge est bénéfique à ce niveau-là. Mais quand tu l'apportes par des compléments alimentaires, en fait, j'ai fait des recherches. En fait, il y a des recherches qui démontrent que des compléments alimentaires de resvératrol empêchent, par exemple, de prendre de la masse musculaire, empêchent le muscle de se reconstruire correctement. Donc, il faut se méfier, en fait, parce que certains. En fait, ce qu'il faut, c'est. Parce qu'en fait, le resvératrol, c'est un antioxydant qui va non pas aider le corps sur ses propres défenses, c'est un antioxydant qui va directement agir avec les radicaux libres. En gros, pour très simplifier, le resvératrol, il va venir détruire les radicaux libres. Donc, on pourrait dire, ce principe, c'est génial, c'est bien. C'est cool. Oui, ben non, parce qu'en fait, justement, si tu le prends dans le cadre d'une activité physique, il faut, comme j'expliquais tout à l'heure, il faut qu'il y ait un minimum de stress oxydatif. Il faut qu'il y ait un peu de radicaux libres. Et donc, si jamais tu prends des compléments de resveratrol en espérant que ça va diminuer, en fait, ton stress oxydatif, en fait, ça va impacter ce stress bénéfique. Et du coup, tu n'auras pas la réponse physiologique. Il faut des compléments alimentaires éventuellement d'antioxydants qui viennent donner un coup de pouce aux défenses endogènes, mais pas faire le boulot du corps, en fait. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, bien sûr.
Et est-ce qu'on a une vérité ? Enfin, tu vois, je suis pas sûr qu'on comprenne exactement le pouvoir des compléments. Est-ce que ça a un effet bénéfique ? Est-ce que sur toi, Wilfried, ça marche ? Chez moi, ça marche pas.
Là, c'est une étude. Hein. J'ai plus la référence de l'étude. On pourra peut-être la mettre en description. Je l'enverrai. Mais là, c'est pour le resveratrol. C'est un exemple précis. Si on prend un autre exemple, qui est l'astaxanthine, par exemple, l'astaxanthine, qui est un antioxydant aussi très puissant, n'a pas le même effet. On montre parce que l'astaxanthine, par exemple, elle vient aider en fait les défenses naturelles du corps sans détruire les radicaux libres. Donc là, c'est magnifique.
Denis Richer d'ailleurs en parle dans son livre où il y a eu des expériences qui ont été faites sur les fumeurs où on s'est dit ben on va leur faire prendre des antioxydants aux fumeurs et derrière on a moins de chances qu'ils développent des pathologies et au contraire il y avait encore plus de cancers avec les gens qui prenaient des antioxydants. Donc c'est vrai que la réalité est beaucoup plus complexe. On peut pas se dire ben oui tel ou tel complément a telle vertu, je vais le prendre. Non, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est le message que tu peux donner.
Et tellement d'accord avec ça qu'il y a même des études qui ont dû être arrêtées parce que le taux de décès était important. C'est-à-dire qu'effectivement, des personnes qui avaient des cancers du poumon, on leur donnait des compléments alimentaires d'antioxydants, en fait, et le taux de décès augmentait, quoi. Donc, on s'est dit, bon, là, on arrête, parce qu'on est en train de tuer des gens, littéralement, quoi. Donc, c'est pour te dire que c'est vraiment pas anodin, quoi, de prendre des compléments d'antioxydants. Il faut faire vachement gaffe à ça, quoi. C'est vraiment, pour moi, une zone un peu dangereuse, quoi, en fait.
Et la famille des antioxydants, c'est quand même une famille qui est très grande. On entend beaucoup parler à vitamine C,
astaxanthine, tu vois, c'est pour ça qu'il faut bien distinguer chaque cas différent.
J'avais vu cette chaîne, tu vois, des antioxydants, parce que un antioxydant globalement c'est un élément qui va pouvoir donner un électron à une espèce qui est instable et qui potentiellement peut créer des dégâts dans nos cellules. Sauf que quand cet antioxydant donne son électron pour protéger le stress oxydant, il devient lui aussi oxydatif. Et donc il y a toute une chaîne d'antioxydants qui vont réduire, qui vont amener des électrons aux antioxydants qui ont servi et qui deviennent par définition eux-mêmes instables. Il y a la vitamine C, il y a la vitamine E, il y a le glutathion, il y a.
Alors, toi, typiquement vitamine C, vitamine E, attention, ça pareil, on pourrait se dire. Peut-être les gens qui disent vitamine C à forte dose, attention, parce que tu vois, pareil, vitamine C, vitamine E, c'est dans la même famille que le resveratrol. Ça a tendance, du coup, à attaquer directement les radicaux libres, donc à diminuer les capacités naturelles du corps à lutter contre le stress oxydatif. Donc, ça, j'en parlais parce que tu viens de l'évoquer.
Le corps devient feignant, en fait.
Exactement, voilà.
Ouais, mais du coup, j'imagine nos auditeurs, pardon, qui nous écoutent, ils se disent oui, mais comment je peux savoir si j'ai un stress oxydatif qui est trop important ou pas? Donc, du coup, est-ce qu'il y aurait déjà des symptômes dans un premier temps? Et après, dans un second temps, si on veut pousser un petit peu plus parce qu'on a peut-être une suspicion, est-ce qu'on aurait des tests à faire, des analyses sanguines notamment pour voir est-ce que c'est possible, parce que ça dépend peut-être aussi de l'entraînement qu'on a eu. Si je suis sur une semaine où je me suis beaucoup entraîné, est-ce qu'il y aurait un sens à tester tout ça?
Bon, sur une semaine d'activité physique un peu intense, je dirais non, parce qu'en fait là ça reste dans un cadre relativement physiologique et puis tu vois, c'est pas pire que de vivre en ville, je dirais, quoi. Par contre, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui fait effectivement qui a la limite du surentraînement. Quelqu'un, un sportif de haut niveau, par exemple, quelqu'un qui est particulièrement exposé à ça, je dirais que ça peut faire sens, effectivement, pour voir où il en est. S'il n'aurait pas, dans ces cas-là, lui, un besoin de compléments alimentaires, ça peut faire sens, effectivement, ouais. Mais non, c'est pas le genre de test que je recommanderais à tout le monde, quoi, clairement.
Mais est-ce qu'on fait pas une erreur, justement, je réfléchissais à ça, en se disant que ça concerne que le sportif de haut niveau? Imaginons une personne sédentaire qui n'a jamais fait de sport, donc qui a une capacité à peut-être produire des antioxydants qui est assez faible, qui va ne serait-ce faire que 2 à 3 séances de sport par semaine, mais elle n'a jamais été habituée à en faire. Est-ce que déjà pour elle, ces 2 ou 3 séances, si elle s'entraîne mal avec peut-être un peu trop d'intensité, ça peut pas générer du stress oxydatif trop démesurée.
Ça va être ponctuel, si tu veux. C'est que oui, elle va avoir des phénomènes physiologiques qui vont être importants parce qu'effectivement, le fait de se remettre à l'activité physique alors que tu étais sédentaire, ça va, enfin voilà, à des courbatures de l'espace. c'est clair, quoi. Il va y avoir des conséquences. Mais tu vois, ça va durer quelques jours, quelques semaines maximum. Ça reste sur un usage, enfin, sur une durée relativement limitée, tu vois. Quand on parle, par exemple, d'inflammation, on parle d'inflammation chronique lorsqu'on dépasse, tu vois, genre, typiquement un mois, par exemple, tu vois. Et je pense pas qu'une personne qui se remet au sport va pas être pendant un mois, en problématique, voilà, où elle va avoir des courbatures, elle va avoir des, puis une personne qui se remet au sport, en fait, elle va pas s'y mettre intensément, tu vois, elle va se rendre compte qu'il faut qu'elle y aille doucement en théorie. Donc, non, je pense pas qu'il faut mettre ce genre de personnes dans le lot. Je cible, pour moi, précisément, les sportifs qui sont très, très impliqués, qui sont à la limite du surentraînement. Et tu vois, je peux me mettre un parti dedans, tu vois. Parce que moi, tu vois, je fais du crossfit et je faisais à peu près 4-5 séances par semaine, il y a encore quelques temps, avec quasiment à chaque séance, on appelle un Metcon. Je ne sais pas si vous parlez, un Metcon, c'est en gros haute intensité. Tu parlais de symptômes du stress oxydatif. Bah, je pense que j'ai été concerné il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'avais des symptômes. J'ai fait mesurer récemment mon taux de cortisol, par exemple. Il était anormalement haut. Alors, je ne suis pas quelqu'un de stressé de base, et je pense que tu vois, j'étais potentiellement en surentraînement. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai revu en fait ma volumétrie ma méthodologie d'entraînement, c'est-à-dire qu'en fait, je continue à faire du CrossFit, mais je ne fais des activités à haute intensité que deux fois par semaine à peu près. J'ai limité ça pour justement laisser à mon corps le temps de récupérer. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, tu vois, la phase normale, c'est activité intense et on laisse le corps récupérer pour que tous les processus naturels de réparation se mettent en place, en fait. Et derrière, tu vois, on peut recommencer genre 72 heures après, par exemple. Mais faire un entraînement à haute intensité tous les jours, pour moi, c'est clairement problématique, quoi.
Et tu veux rebondir, Vincent, t'as une question?
Non, mais c'était sur la réflexion du sportif de haut niveau. Je pense que voilà, on est tous sportifs ici, et puis on a une famille à gérer, on a notre boulot. Même si on n'est pas sportif de haut niveau, on a une vie de haut niveau très stimulée. Et je pense que voilà, le surentraînement peut en faire partie, mais la surstimulation globale, le stress, le manque de sommeil, on va sûrement aborder aussi l'alimentation, mais tout ça, aussi des phénomènes qui peuvent amener vers cette inflammation et ce stress oxydatif.
Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que d'ailleurs, un sportif qui n'a pas une vie, on va dire, très saine, tu vois, genre qui néglige un peu son sommeil, qui mange mal, qui vit en ville, bah, en fait, il met un peu, il accumule un peu les problèmes, on va dire, quoi, potentiellement. Tu vois, j'en ai encore il n'y a pas très longtemps une vidéo d'une, je ne citerai pas son nom, influenceuse. Qui donc fait beaucoup d'ultra trail notamment, et qui dit qu'en gros pour supporter ces hautes intensités, enfin ces hauts volumes d'entraînement, il faut manger beaucoup en fait de calories. Là-dessus, c'est vrai. Et elle disait en fait en gros que pour assurer cet apport calorique, en fait l'alimentation saine, c'est compliqué. Donc il faut plutôt aller vers parler de Coca-Cola, de biscuits, etc., etc., quoi. Et je pense que tu vois, une fois à l'occasion, c'est pas très grave, mais quand on l'écoute, c'est vraiment quelque chose de récurrent, en fait, toi, parce qu'elle s'entraîne vraiment à haute intensité. Et du coup, d'un point de vue purement calorique, je suis d'accord avec elle. Maintenant, la question, c'est est-ce que cette philosophie, elle est viable sur le long terme, en fait, toi? Est-ce que c'est viable, en fait, de manger comme ça, de l'ultra transformer pour apporter son lot de calories? Je ne pense pas, tu vois. Du coup, pour moi, là elle joue avec sa longévité, par exemple, tu vois. À l'instant T, elle a des bonnes performances, mais sur le long terme, est-ce que son corps va supporter? Je ne pense pas, parce que de toute façon, quoi qu'on en dise, les aliments ultra transformés, en fait, c'est délétère pour la santé. Et là, il n'y a pas de débat. C'est bien une unanimité là-dessus, c'est bien ça, quoi.
Et là, nos auditeurs, ils sont en train d'écouter. Ça fait une demi-heure qu'on parle d'inflammation, stress oxydatif. Quel est le filtre que tu pourrais leur donner pour se dire, ah, il y a peut-être un truc à, j'ai peut-être un terrain inflammatoire, j'ai peut-être un stress oxydatif. C'est quoi les symptômes majeurs?
Les symptômes majeurs, ça va être très principalement la fatigue. Je dirais la fatigue, c'est quelque chose. Alors, le syndrome de fatigue chronique, c'est quelque chose qui est assez courant aujourd'hui. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, et malheureusement, en fait, il y a plein de causes possibles. Ça va pas dire c'est à cause du stress oxydatif. Il n'y a pas une cause, mais clairement, les gens qui sont inflammés, c'est un des symptômes les plus courants. D'ailleurs, quand j'aide les personnes justement à vaincre leur inflammation chronique, très souvent, en fait, on va avoir cette ces personnes qui vont dire, bah tiens, avant j'avais du mal à me lever, je manquais d'énergie, j'étais pas quelqu'un toi qui était très dynamique, et ben ça va beaucoup mieux du coup. Donc la fatigue chronique, c'est quelque chose qui est assez courant. Et en fait, ça s'explique très facilement, c'est que quand tu as un niveau inflammatoire élevé, donc qui peut s'expliquer soit par une inflammation, tu vois, genre à bas grade pour diverses raisons, ou parce que tu as justement un excès de radicaux libres, bah en fait c'est très simple à comprendre. En fait, quand est-ce qu'on a l'inflammation en général de façon physiologique? C'est quand tu es malade. On expliquait à la base, l'inflammation sert à réparer le corps. Donc quand tu as un virus, quand tu as une charge bactérienne ou un virus qui est trop important, ce qui va se passer en fait, c'est que tu vas avoir l'inflammation de ton corps qui va augmenter. Ça, c'est normal en fait. Hein. Et on sait que quand on est malade, est-ce qu'on a envie d'aller courir dehors? Est-ce qu'on a envie d'aller faire la fête? Non, on a qu'une envie, c'est de rester chez soi, on est fatigué. En fait, le corps, il se dit en fait, en gros, on se met au repos, on diminue en fait le métabolisme de base en fait, et on laisse les défenses immunitaires faire leur taf en fait. Quoi. Donc ça c'est normal, c'est le comportement physiologique de la maladie, on va dire quoi. Maintenant quand c'est chronique, quand tu as une inflammation qui est chronique, là par contre, tu vois cette fatigue qui normalement est normale dans la maladie, bah, elle va devenir constante. Donc du coup tu vas être tout le temps fatigué, t'auras pas les idées en place, tu vas avoir du brouillard mental, etc. Ça, c'est vraiment le symptôme principal. Après je dirais aussi que tu vas avoir des symptômes au niveau de la peau, par exemple les gens qui ont pas une belle peau, les gens qui ont un teint un peu blafard, c'est typique en fait du niveau inflammatoire élevé. Tu vois, on parlait des fumeurs tout à l'heure, bon bah les fumeurs on sait bien qu'ils ont pas une belle peau quoi. Typiquement c'est un exemple concret là. Donc voilà les principaux symptômes, on va dire. Pour moi c'est fatigue chronique et la peau, parce qu'en fait la peau, l'avantage c'est que bah, c'est visible, donc très souvent en fait on peut le voir, alors qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps qui sont beaucoup plus compliquées à voir du premier coup d'œil.
Et tout ce qui est chronique, non, douleur
bien sûr hein. Ça va être aussi tu vois, les douleurs articulaires, les personnes qui vont être sujets à l'arthrose, tu vas aussi avoir les allergies. Une personne qui a des allergies chroniques, par exemple, c'est pas normal en fait. Et ça s'explique aussi parce que l'inflammation élevée entraîne un système immunitaire en suractivité. Parce que les deux sont liés en fait. Hein. L'inflammation est liée au système immunitaire. Donc quelqu'un qui a un système immunitaire qui est suractivé à cause de l'inflammation aura beaucoup plus tendance à développer des maladies auto-immunes, comme par exemple bah, les allergies, hein, parce que les allergies sont en partie des maladies auto-immunes. Ouais, typiquement, ça en fait partie, ouais, clairement.
Est-ce qu'il y a des marqueurs dans la prise de sang qu'on pourrait aller chercher justement?
Oui. Alors le plus connu, c'est la CRP-US. CRP-US, donc, enfin, je pense peut-être vous connaissez la CRP. La CRP, c'est une des molécules qu'on dose pour doser le niveau inflammatoire. Sauf qu'elle n'est pas assez sensible pour doser l'inflammation chronique. Donc, par exemple, toi, si tu as un rhume, bon, bah, la CRP va être élevée, mais c'est normal en fait. Parce que quand tu as un rhume, tu as ton système immunitaire qui est activé, donc tu as l'inflammation qui est activée, donc la CRP est haute. Alors, maintenant, l'inflammation chronique, comme j'expliquais, c'est une inflammation qui est relativement de bas niveau. C'est une inflammation qui est pas élevée, mais qui est constante. Et la CRP, en fait, elle est pas assez précise pour ça. Donc, du coup, on a ce qu'on appelle la CRP-US ou HS-CRP en anglais, CRP ultra-sensible. Et d'ailleurs, sur la CRP ultra-sensible, je mettrai aussi un petit bémol parce que quand on regarde un peu les zones, on va dire, un peu normales, souvent on considère qu'inférieur à 3, c'est OK. En fait, en gros, entre 1 et 3, c'est la zone un peu orange, on va dire, mais il y a tellement de personnes qui sont en inflammation, c'est ce que je disais tout à l'heure, Vincent, hein, tous un peu enflammés, qu'en fait, si jamais on disait que la zone normale, c'était inférieur à 1, ce qui est le cas normalement, la zone optimale, c'est inférieur à 1, bon, en fait, tout le monde serait dans la zone pas normale, en fait. Quoi. Donc, on a dit, en gros, entre 1 et 3, c'est pas terrible, mais c'est OK, en fait. Quoi. Bah non, pour moi, entre inférieur à 3, c'est pas OK. Entre 1 et 3, c'est pas OK. Il faut tout le monde doit viser inférieur à 1. Ça, c'est vraiment important pour moi. La zone optimale et pas normale.
Là, tu parles d'inflammation et au niveau du stress oxydatif, est-ce qu'il y a des marqueurs spécifiques que toi,
ouais,
tu aurais
trouvé? Alors là, par contre, c'est un peu plus touchy. Notamment, tu peux faire des tests. Alors, tu as ce qu'on appelle le groupe thiol que tu peux mesurer. Tu as les carbonyles protéiques aussi de mémoire. Donc, ça, c'est ton niveau de protéines oxydées. Tu as le F2 isoprostane, je crois aussi, que tu peux mesurer. Et puis, tu as des tests respiratoires, ce qu'on appelle les hydrocarbures expirés, comme le pentane et l'éthane, par exemple, qui sont des méthodes plutôt non invasives. Du coup, là, tu as juste à respirer dans un masque. Où là, en fait, tu peux déterminer via des, différentes mesures en fait ton niveau de stress oxydatif, mais c'est quand même beaucoup plus rare en fait en général. C'est réservé pour des cas très concrets quoi. Tu vas pas chez le médecin pour dire je voudrais faire un test FDO isoprostane urinaire, il va te dire pourquoi, à quoi ça sert. Voilà. Donc en général déjà voilà, se mettre sur le sur, comment expliquer en fait déjà le fait que l'inflammation et le stress chronique et le stress oxydatif soient liés en fait, déjà mesurer la CRPUS c'est un très bon indicateur déjà. Et que c'est facilement accessible. Tu peux le demander à ton médecin, normalement un test sanguin basique, tu peux le demander, c'est OK quoi.
Écouter des podcasts c'est bien, mais vivre un événement c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité. Un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au Sommet de l'Hypersanté en 2026. Seulement 10% d'entre vous sont abonnés sur nos réseaux. N'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre les 5 étoiles. Ça nous donne de la force pour la suite. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code PODCAST10. Lien et code en description. Retour au podcast.
Et juste pour donc là on a nos auditeurs, je pense ils ont bien compris comment ça se passait. On a vu cette différence entre l'inflammation, le stress oxydatif, mais que les deux étaient liés. On leur a expliqué maintenant comment observer ça, que ce soit par des symptômes. On en a vu la fatigue, on a vu également la prise de sang. Donc maintenant concrètement, qu'est-ce qui se passe au niveau des protections? On parle de 3 lignes protectrices. On ne va pas rentrer trop dans le détail. On va essayer d'expliquer à nos auditeurs leur importance. Et après, à la fin, on va justement vous dire comment faire par l'alimentation, par la complémentation concrètement pour essayer de limiter au maximum les effets un petit peu néfastes parfois de l'entraînement qu'il peut y avoir, même si bien sûr, on est tous d'accord pour dire que l'entraînement a des vertus qui sont exceptionnelles. Et justement, c'est pour vous aider et vous faire comprendre qu'avec l'alimentation, ça va être un support pour être en bonne santé et vous entraîner intelligemment. Wilfried, excuse-moi, j'ai été un peu long, mais je te laisse rebondir.
Non, mais tu as tout à fait raison. Effectivement, enfin, là, on pourrait croire que du coup, je suis anti-sport, alors que pas du tout. C'est justement l'inverse. En fait, le sport, il est totalement bénéfique. Je ne vais pas vous l'apprendre à vous, en fait, les gars. Mais voilà, effectivement, je voulais mettre un peu le warning sur l'entraînement, on va dire, un peu problématique que certaines personnes rencontrent, effectivement. Donc, tu parles effectivement des 3 remparts de défense. Donc, pour lutter contre le stress oxydatif, en fait, le corps, il a plusieurs protections, effectivement. Alors, en première ligne, on pourrait citer en fait, toutes les enzymes en fait, que ton corps a et qui sont en fait des enzymes justement antioxydantes. Alors, le plus connu, je pense que vous connaissez, c'est le glutathion, peroxydase. C'est un des antioxydants les plus connus du corps, on va dire, et un des plus efficaces. Il y en a d'autres, hein, il y a le superoxyde dismutase, etc. Bref, par contre, faut toujours, là où c'est important, là je ferai un petit bémol là-dessus, c'est que ces molécules marchent bien que dans certaines conditions. Par exemple, donc ces premiers remparts, en fait, ces molécules anti-inflammatoires, on va dire de base, hein, comme le glutathion, ne marchent bien que quand on a en fait un niveau de minéraux qui est suffisant. Donc on peut parler du cuivre, du zinc, du manganèse, par exemple, qui sont des cofacteurs qui sont nécessaires. Il y a aussi le sélénium, par exemple. Et tu vois, si tu prends par exemple le zinc, bah en fait il y a beaucoup de gens qui sont en carence, par exemple, notamment pour nous les hommes, c'est hyper important le zinc pour plein de facteurs, mais le zinc, tu vois, c'est un exemple de minéral sur lequel tu pourrais être en carence. Donc, dans ces cas-là, en fait, t'as un cofacteur qui est limitant, c'est-à-dire que tu peux avoir en fait un environnement qui soit bon d'un point de vue défense antioxydante, mais t'as un cofacteur qui est limitant. Et donc là, tu vois, c'est l'alimentation, parce que le zinc il va venir par l'alimentation. D'où l'intérêt justement d'avoir une alimentation qui va être saine, optimale, anti-inflammatoire, riche en micronutriments, qui va venir justement aider ton corps à lutter contre le stress oxydatif. Ça c'est hyper important. Et donc toute carence alimentaire a des répercussions. Et notamment pour le cas de l'inflammation, ça peut être vraiment important comme conséquence. Donc pour ça, moi je lutte toujours contre les carences. Ça peut sembler un peu évident et enfoncer une porte ouverte, mais c'est vraiment quelque chose qui est très important. En fait.
Donc cuivre, zinc et sélénium, tu le retrouves manganèse. Comment dans l'alimentation ces quatre éléments?
Alors les aliments.
C'est quoi tes recommandations?
Ouais, bah, ça va être de, ça, pareil, ça va pas être extrêmement original, hein, mais ça va être une alimentation la plus diversifiée possible, la plus naturelle possible. Typiquement, tu vois, tous les aliments ultra transformés en général sont plutôt pauvres en minéraux, alors qu'inversement, l'alimentation végétale est plutôt riche en minéraux, elle. Alors, tu peux aussi en trouver dans l'alimentation animale. Hein. Si par exemple tu manges du foie, par exemple, tu vas avoir une très grande richesse de micronutrition via le fait de manger du foie. Mais voilà. Donc, essayer de manger le plus diversifié possible et surtout aussi le plus coloré possible. Là aussi, c'est un truc basique qu'on dit en nutrition, mais qui est extrêmement vrai. C'est que alors là, c'est parfois une petite parenthèse, mais les antioxydants exogènes, en fait, que tu trouves que par l'alimentation, sont principalement liés à la couleur des végétaux. Donc, par exemple, plus tu as un végétal qui est vert foncé ou violet foncé, etc., bah, plus il va être riche en micronutriments et notamment en antioxydants. Donc, tu vois, notamment, on parle souvent des baies, par exemple, qui sont d'une très grande richesse nutritionnelle. Donc, bah, les baies, tu vois, c'est une couleur un peu écarlate, en fait. Donc voilà. Après, tu vois, le sélénium, par exemple, je disais, on le trouve dans donc les noix du Brésil, par exemple, le zinc, on peut le trouver dans les huîtres, le manganèse, enfin voilà. Il y a plein d'aliments comme ça, en fait. Il faut manger le plus diversifié possible.
C'est l'origine et la façon dont c'est cultivé ou le mode d'élevage qui va aussi modifier entre un steak et un steak. On ne mange pas exactement la même richesse nutritionnelle et micronutritionnelle.
Tout à fait. Ça va se retrouver aussi dans les oméga 3, par exemple. On en parlera un peu plus tard aussi, peut-être. Mais clairement, oui.
Donc, l'alimentation, elle vient soutenir justement ces cofacteurs qui vont aider à cette première ligne. Pour résumer, pour nos auditeurs,
des antioxydants endogènes, en fait, donc ton corps a besoin de matières premières et de cofacteurs. Et là, c'est l'alimentation qui va venir en partie l'aider, tout à fait.
Oui, donc tout à l'heure, tu parlais justement de cette influenceuse qui disait de manger en quantité importante. Mais au final, on voit bien que si on mange une alimentation qui est pauvre, qui est riche en produits ultra transformés, on va peut-être avoir des carences micronutritionnelles.
C'est là
où ça peut agir justement au niveau de ces enzymes antioxydantes.
Exactement, tout à fait.
Et après, donc là, c'est la première ligne. Donc, à cette première ligne, elle est dépassée. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ?
Ensuite, on a des molécules qui vont venir piéger les radicaux libres. Donc là, c'est vraiment des molécules qui vont interagir directement avec les radicaux libres, d'accord ? Qui ne vont pas venir protéger les cellules, qui vont venir directement impacter les radicaux libres. On en parlait tout à l'heure, t'en parlais, Vincent, notamment la vitamine E, la vitamine C, vitamine A, tout ce qui est caroténoïdes, etc. Ça, ce sont des molécules extrêmement intéressantes parce que elles vont venir justement aider le corps en parallèle de ses propres défenses oxydantes. Mais cette défense numéro 2, cette deuxième ligne, doit toujours, pour moi, se faire avec des quantités physiologiques. C'est-à-dire, d'où pour moi, sauf prescription du médecin, toujours éviter les complémentations vitamine C à dose massive, vitamine E à dose massive, vitamine A à dose massive. C'est pas bon, en fait. Là, tu vas apporter, en fait, une très grande quantité d'antioxydants qui vont venir justement réagir avec les radicaux libres et provoquer, en fait, un manque d'adaptation de ton corps. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les fumeurs. Enfin, que les gens qui avaient des cancers, tu sais, on parlait du fait qu'on les complémentait avec des vitamines C, A, etc., etc. Et si on dit, ah putain, faut qu'on arrête parce qu'en fait, on est en train de tuer les gens, bah, c'est typiquement ce cas-là. Voilà. Quelqu'un qui a une trop grosse consommation de vitamine A ou vitamine C par des compléments alimentaires, parce que par l'alimentation, c'est quasiment impossible d'avoir des surdoses, en fait. Mais par des compléments alimentaires, là, c'est problématique. Une autre molécule intéressante, c'est la Q10. On parlait de la mitochondrie en introduction. La CoQ10, c'est une des molécules principales, en fait, qui intervient au niveau de la mitochondrie. Tu parlais des transferts d'électrons, Vincent, tout à l'heure. Bah, la mitochondrie, tu vois, a besoin de la CoQ10, notamment pour participer au transfert d'électrons et au recyclage, notamment aussi de la vitamine E membranaire. Et la CoQ10, en fait, a tendance à diminuer avec l'âge. Donc, il faut absolument, là aussi, avoir une alimentation qui soit suffisamment riche en CoQ10. Donc, des produits animaux, par exemple. Et là, pour moi, par contre, ça peut faire sens de se complémenter. La CoQ10 ne va pas venir directement interagir avec les radicaux libres. La CoQ10 va venir aider la mitochondrie. Donc là, ça ne pose pas de problème. Tu vois, c'est pour ça que chaque complément est spécifique. On peut pas dire c'est OK pour tous les compléments. Non, c'est spécifique, en fait.
Oui, donc on voit quand même que la mitochondrie joue un rôle important. Plus elle va être efficace et moins elle va produire de radicaux libres ou pas spécialement.
Exactement, ouais. Bah oui, c'est ça, en fait. C'est pas tant ça, c'est qu'il faut qu'elle ait une bonne respiration, en fait. Il faut que tous les processus respiratoires de la mitochondrie soient parfaitement équilibrés. Il faut que ça marche bien. D'ailleurs, Il y a beaucoup d'auteurs en fait qui défendent aujourd'hui la thèse que le cancer, par exemple, viendrait d'un dysfonctionnement de la mitochondrie, d'un problème respiratoire au niveau de la mitochondrie. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, hein. On se rend compte que lorsque la mitochondrie marche mal, lorsqu'elle a du mal à respirer correctement, lorsqu'elle fermente, on va dire, donc c'est-à-dire qu'elle change de filière métabolique, bah c'est là en fait que la cellule elle dysfonctionne et qui peut emmener du coup la création de cancer, clairement. Ouais. Donc aujourd'hui, enfin vous avez vu au sommet de l'hypersanté, hein, la santé passe avant tout par une bonne santé mitochondriale. Ça c'est fondamental. Ouais.
Et pour toi, quelles seraient les bases de cette santé mitochondriale? On a fait bien sûr un épisode avec le professeur Castronovo que vous retrouverez facilement sur la mitochondrie. Mais si tu devais donner des conseils à nos auditeurs, quels seraient-ils?
Je dirais, ça va pas être spécifique, enfin ça va pas être extraordinaire comme conseil. Ça va être les conseils de base qui vont être une alimentation qui va être optimale. Je dis bien, toi, optimale, pas saine, hein, optimale. Donc, c'est-à-dire suffisamment riche justement en micronutriments et éviter tout ce qui est aliments pro-inflammatoires. Donc, ce que j'enseigne, l'alimentation anti-inflammatoire. L'activité physique, physiologique. Donc, là aussi, encore une fois, quand on fait du sport de façon trop intensif, sans laisser de récupération, bah, du coup, la mitochondrie, du coup, produit énormément de radicaux libres, en fait, et derrière, comme on a vu, c'est problématique sur le long terme. Et puis, lui donner un petit coup de main. Notamment, j'expliquais la complémentation en CoQ10, pour moi, elle fait vraiment sens. Notamment, dès que tu dépasses, pour moi, les 35 ans, la complémentation en CoQ10 fait vraiment sens. Ouais. Parce qu'on a tendance à en manquer et la mitochondrie en a besoin de façon vraiment importante. Donc, aujourd'hui, je me complémente quasiment tous les jours en CoQ10. Quoi.
C'est vrai que moi, j'ai jamais pris de la Q10, mais j'aimerais bien faire un épisode justement sur la Q10. Je pense que si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, les auditeurs. Vincent ?
C'est Dr. Rizimon qui parlait de ça. Tu sais, on a parlé du coup du système hormonal avec Dr. Rizimon, mais on a parlé à un moment de la sarcopénie, ouais. qui est liée aussi à la chute de CoQ10. Et donc, nos mitochondries ont moins de coenzyme Q10 pour fonctionner, dû à l'âge. Mais surtout au niveau cardiaque. Donc en fait, le myocarde, qui est le tissu le plus riche en mitochondries et donc en CoQ10, donc cette diminution serait liée en fait aux insuffisances cardiaques. Et donc voilà, vous pouvez aussi écouter l'épisode avec Dr. Rizimon, c'était super intéressant.
Et attention, moi, je sais pas si des personnes qui nous écoutent qui prennent des statines, mais les statines aussi ont tendance à diminuer le stock de CoQ10 de façon encore plus importante. Donc, quand on a un traitement de statine, pour moi, la complémentation Q10, elle est indispensable, vraiment là.
Ouais. Et sujet épineux, parce que on n'est pas là pour parler de cardiologie, hein. Bien sûr, ça c'est vraiment un domaine à part qui est fait pour les cardiologues. Mais voilà, en fait, cette coenzyme Q10, elle peut être impactée, sa production par les statines, parce qu'elle vient couper une voie de production de différentes molécules, dont la coenzyme Q10. Donc voilà, faites-vous accompagner, allez voir vos experts et puis écoutez quelques petits épisodes de 1000%.
Et il nous reste la troisième ligne pour se protéger contre le stress oxydatif. On a parlé un petit peu précédemment, en fait, c'est le stress, tout bêtement, mais le bon stress. Le stress, justement, qui va venir aider le corps, en fait, à devenir plus fort. Donc, il y a plein d'exemples. Il y a ce qu'on appelle les protéines de choc thermique. Qui viennent donc aider en fait à réparer les cellules qui sont endommagées, par exemple, en les forçant entre guillemets à aller vers l'apoptose. L'exercice physique, forcément, le jeûne intermittent aussi. Donc tout ce qui est stress hormétique est clairement en fait pour moi dans l'équation pour aider à lutter contre le stress oxydatif, parce que du coup ça va juste aider le corps à être plus fort et à avoir un meilleur système en fait de fonctionnement, tout bêtement, quoi. Donc là, clairement, ouais. Aujourd'hui, on parle même de stress hormétique directement au niveau de la mitochondrie.
Mitohormèse, non, c'est pas ça.
Exactement, la mitohormèse.
Mitohormèse.
Voilà.
Et donc là, on a compris que la mitochondrie, elle était centrale dans cette gestion du stress oxydatif entre la production de radicaux libres, notre gestion par les antioxydants. Et on voit que c'est soit l'un, soit l'autre, soit un peu des deux. C'est souvent les deux. Et on n'a pas parlé de santé digestive, mais quand même, notre première défense, c'est notre paroi intestinale. Et puis derrière, il y a le système immunitaire. Si on a une mauvaise santé intestinale, on va avoir un système immunitaire qui va être déséquilibré, qui va produire des radicaux libres en quantité. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit focus sur...
Ouais. Alors c'est hyper intéressant que tu en parles, parce qu'effectivement, alors à la base, je ne comptais pas en parler, parce que c'était, pour moi, ce n'était pas directement lié au stress oxydatif. Mais par contre, effectivement, on va avoir une augmentation globalement de l'inflammation dès que tu vas avoir un intestin qui va être en mauvaise santé, et pour deux raisons principales. La première, c'est tout bêtement une augmentation de la perméabilité intestinale. Si par exemple, tu as tendance à consommer des aliments qui ont tendance à modifier la perméabilité intestinale, donc à ouvrir les jonctions serrées de ton intestin, tu vas avoir des molécules qui vont passer à travers ta paroi intestinale, qui vont arriver dans le sang, en fait, et ça va activer ton système immunitaire, parce que il y a des molécules qui ne sont pas censées passer dans le sang, qui vont passer quand même. Et donc, on a vu plusieurs fois là, hein, que dès que le système immunitaire il est activé, ça implique de l'inflammation. Les deux sont liés, en fait, sont automatiquement. Donc, on peut avoir une inflammation qui va être locale, qui va être temporaire si voilà tu manges un produit qui ponctuellement augmente ta perméabilité intestinale, mais si c'est tous les jours, bah là c'est le problème en fait, c'est que tu vas avoir en fait tous les jours des molécules qui passent, et tu vas avoir en fait comme ça cette inflammation qui va perdurer, et toutes les molécules inflammatoires qui vont être créées vont circuler dans le sang. Ça va pas rester au niveau de l'intestin ou au niveau des petits capillaires de l'intestin, ça va voyager dans le sang et globalement ça va augmenter ton niveau inflammatoire. Donc ça, c'est la première chose, l'augmentation de la perméabilité intestinale. Et deuxième chose, ça va être l'augmentation de la dysbiose, en fait, c'est-à-dire du déséquilibre de ton microbiote intestinal. Si par exemple, tu as tendance à consommer des aliments qui ne sont pas assez riches en fibres, donc pour nourrir tes bonnes bactéries, ou si tu consommes des aliments qui ont tendance à favoriser les mauvaises bactéries. Alors je mets des guillemets, on ne voit pas l'écran, je mets des guillemets. Parce que d'ailleurs, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises bactéries. J'aime pas trop ce terme-là. Toi, c'est un peu comme le bon et le mauvais cholestérol. J'aime pas ce terme-là, mais ça permet juste de comprendre un petit peu. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des populations en certaines quantités. Et quand tu as des modifications de ces populations, c'est là que c'est problématique, en fait. Mais même les mauvaises bactéries, elles sont nécessaires, mais en certaines quantités. Et si donc tu favorises ces mauvaises bactéries, avec des guillemets, du coup, en fait, tu vas avoir une modification en fait de tout l'environnement de ton intestin, parce que faut savoir que les bactéries en fait intestinales sécrètent des molécules qui sont plutôt anti-inflammatoires de base, mais les mauvaises bactéries peuvent génèrent plutôt elles des molécules qui sont plutôt pro-inflammatoires. Donc clairement, tu peux provoquer comme ça un environnement inflammatoire qui va d'ailleurs s'auto-entretenir, hein, parce que quand tu as une dysbiose, ça a même tendance en fait à augmenter la perméabilité intestinale. Donc tu vois, les deux éléments peuvent s'auto-entretenir mutuellement, en fait. Donc voilà.
C'est vrai que Denis Richer, justement, dans son livre, on espère que Denis Richer viendra dans notre podcast, si quelqu'un le connaît, ou n'hésitez pas à lui envoyer des messages pour qu'il vienne dans 1000%, nous parle justement de ces... Il a quatre maillons faibles. Deux de ces maillons faibles, donc chez le sportif, ça serait justement ce système digestif et ce stress oxydatif. Et il insiste aussi sur justement ce système digestif, parce qu'il dit que chez le sportif, il y a vraiment une usure un petit peu prématurée, oui, à cause justement de phénomènes au niveau de la course à pied, avec ces micro-ondes de choc qui vont venir être un petit peu délétères, et ce phénomène d'ischémie hyperperfusion. Est-ce que tu pourrais justement en parler? Et je pense qu'on a beaucoup de sportifs qui vont écouter ce podcast, et le but, c'est pas non plus de les alarmer, de leur dire attention, arrêtez de faire du sport, mais plutôt de leur donner des clés pour prendre soin de leur système digestif, car ça peut justement être un élément sur lequel il peut y avoir des petits soucis sur du long terme.
Ouais. Alors effectivement, l'activité physique, à la base, elle est extrêmement bénéfique pour le système intestinal. Quand tu marches, quand tu cours, voilà, encore une fois, de façon physiologique, tu vas favoriser ce qu'on appelle la motilité. Alors pas mobilité, hein, la motilité avec un T. La motilité, en fait, c'est la capacité qu'a l'intestin en fait à faire avancer le bol alimentaire, en gros, quoi. Il se contracte, il se contracte. Ça permet de faire avancer le bol alimentaire, et ça, c'est hyper important, la motilité, pour justement que les aliments, enfin le bol alimentaire, ne reste pas trop longtemps. Faut pas qu'il y ait de fermentation, en fait. Quand t'as un intestin qui est en bonne santé, il a une bonne motilité. Et donc ça assure en fait une bonne santé intestinale. Inversement, quelqu'un qui est sédentaire, il aura un intestin paresseux, donc il aura une faible motilité. Et ça on le voit, les gens qui sont sédentaires, ils ont tendance à moins bien digérer, à avoir plus de gaz, etc. Donc toi, ça c'est une partie de l'équation. Maintenant, il y a comme tu disais très bien, Alex, il y a la partie un peu extrême. C'est quelqu'un qui va encore une fois, peut-être en faire trop, entre guillemets. Quelqu'un qui va beaucoup courir, qui va être tout le temps en train de bouger, et ben en fait, tu pourrais avoir en fait l'effet inverse. C'est-à-dire que tu pourrais en fait sursolliciter ton système digestif. Parce qu'en fait, il y a aussi un effet pernicieux, c'est que quand tu fais de l'activité physique, ton système immunitaire, il a tendance à être un peu au repos. En fait, c'est que justement, en fait, pour quand tu es en mode stress, tu vois, le stress, on va dire de tous les jours, d'habitude tous les jours, en fait, toi, quand tu es stressé, tu as ton intestin qui est au repos, hein, qui va se calmer, on va dire quoi. Et ponctuellement, c'est pas très grave, en fait, tu vois, c'est pas grave du tout, même c'est ok. Par contre, si c'est sur le long terme, là, ça peut être problématique. Et on sait bien que quand tu fais de l'activité physique, ça génère une forme de stress en fait dans le corps. Toi, tu regardes juste, tout le monde a une montre connectée, on voit bien que quand on fait de l'activité physique, on voit que le niveau de stress il augmente en fait. Donc en fait, sur long terme, en fait, effectivement, l'intestin est impacté par la suractivité. Alors suractivité étant à définir, hein, c'est pas facile en fait de dire voilà, ça va dépendre de chacun, ça va dépendre de son niveau, ça va dépendre de plein de paramètres, mais effectivement, le système digestif peut être une victime collatérale d'un entraînement intensif, effectivement. Et c'est pour ça aussi que, bah, tu sais bien, hein, on explique aussi aux gens qui font des marathons ultra trail, en fait, où bah, d'essayer d'habituer le système digestif à avoir de la nourriture pendant l'effort, parce que de base, comme il est plutôt au repos, en fait, c'est compliqué justement de bien digérer quand on fait un effort, parce que c'est incompatible, en fait. Le système nerveux sympathique et parasympathique sont antagonistes, hein, ils ne peuvent pas marcher en même temps, et quand on fait l'activité physique, ben, on active le système nerveux plutôt sympathique. Donc, la digestion, c'est plutôt du parasympathique. Donc voilà, effectivement, oui. Sur le long terme, ça peut être problématique, quoi.
C'est vrai que moi, je me pose des questions par rapport à ça, je n'ai pas encore les réponses, et justement, s'il y a un expert sur ce sujet-là, au moment d'un effort prolongé, donc on sait que schématiquement le sang va quitter le système digestif, va plutôt aller dans les jambes parce qu'il y a une sollicitation, et après il va y avoir une reperfusion. Et je me posais la question, quelle alimentation justement on pourrait conseiller aux gens après un effort plutôt prolongé? Peut-être une alimentation qui pourrait paraître contre-intuitive, où on va peut-être mettre moins de fibres parce qu'on sait que les fibres peuvent justement peut-être agresser un petit peu le système digestif. Moi, je me posais une question justement sur cette alimentation spécifique post plutôt gros effort. Hein. Je ne parle pas d'un petit footing assez facile. Je ne sais pas si toi, Vincent, aussi, tu as déjà réfléchi à une alimentation clé ou des recommandations, ou si tu as déjà entendu parler de tout ça.
Pas du tout.
Ok, je sais pas. C'est vrai que c'est une question qui m'intéresse et je crois que c'est Denis Richer peut-être qui aura la réponse. Je sais pas si toi, Wilfried, t'as une idée sur cette réponse.
Là-dessus, non, je suis pas spécialiste de l'alimentation post-effort.
Désolé, je vous pose une colle, mais c'est. En fait, je pense juste à moi.
Tu vois, peut-être que toi, ça a pas marché les fibres. Chez moi, ça a très bien marché.
Tu vois, d'éviter peut-être de trop l'agresser.
Du bon sens, faut pas partir dans un sens ou dans l'autre. Pourquoi s'éloigner de ce qui marchait avant, tu vois? Je sais pas.
Ouais, mais est-ce que tu préfères léger, juste des protéines assez faciles à digérer, tu vois, peut-être.
Les protéines, c'est quand même le macronutrient le plus difficile à assimiler.
Alors plutôt des glucides simples, mais c'est pas facile, hein.
Et je pense que la vérité, elle se passe dans le bon sens et dans l'exploration de chacun, à chacun de voir qu'est-ce qui fonctionne chez lui. Que ce soit avant, pendant ou après, vraiment cet entraînement à la digestion lié à l'effort, elle m'a l'air très très personnelle. Hein.
Donc qu'est-ce qu'on pourrait conseiller de surveiller les selles, surveiller le système digestif, les ballonnements, les gaz? Ça pourrait être des bons indicateurs pour se dire ce repas m'a plutôt réussi, là ça marche, ça peut être un bon conseil?
Ouais, c'est voir en fait comment réagit l'alimentation pendant et après. Après, je pense que juste après un effort très long, tu vois, genre si tu fais un marathon par exemple et que t'es pas forcément habitué à en faire, tu vas forcément avoir un désordre intestinal ponctuel, mais il faut que ça reste ponctuel, tu vois, genre peut-être un ou deux jours maximum, quoi. Parce que justement t'as été un peu trop brassé, t'as eu cette contrainte sur ton intestin qui est pas forcément habituelle. Si c'est occasionnel, c'est normal pour moi, ça fait partie un peu du jeu. Par contre, si ça dure, là faut se poser des questions. Effectivement, peut-être t'as mal géré des choses, t'as peut-être mangé des choses qui ne te convenaient pas. Donc ouais, comme disait Vincent, je pense que ça c'est vraiment individuel, il faut se tester. Il y a pas de réponse absolue. Je pense que là la grande réponse c'est ça dépend. Et rien de vaut de se tester en fait.
Ok, bon,
pour
bah, on va
avoir le, pour pas avoir de surprise de jour J, justement.
on va se tester tout ça. Et peut-être pour finir cet épisode, on va quand même les gens attendre ça. Ça va être les solutions sur l'alimentation au niveau du quotidien pour aider et soutenir cette réponse justement antioxydante. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc on a déjà un petit peu évoqué, mais est-ce qu'on pourrait rentrer un peu plus en
Ouais.
détail dans des niveaux de précision? Si on s'éloigne un petit peu du grand, il faut manger diversifié, brut. Ça, je pense que tous nos auditeurs le savent. Mais est-ce qu'il y a des, justement, on a parlé des noix qui peuvent être intéressantes pour le sélénium, les noix du Brésil. Est-ce qu'il y a justement d'autres petites choses comme ça qu'on pourrait intégrer pour un sportif? Bien sûr, on ne va pas répéter qu'il faut une alimentation bien sûr riche en calories, pas être dans le déficit calorique prolongé. Ça, bien sûr, nos auditeurs, ils le savent. On va rentrer un peu plus dans des points un peu plus
La
peut-être
technique.
stratégiques et techniques, ouais, si possible.
Donc, je dirais, pour moi, consommer des aliments hautement anti-inflammatoires. Donc, je mettrais typiquement les baies, les fruits en premier, notamment tout ce qui est les petits fruits, tu vois, genre les myrtilles, les framboises, qui sont extrêmement riches en anthocyanes. L'anthocyane, ça, c'est vraiment incroyable. Ça active donc la voie NRF2, donc la voie anti-inflammatoire, donc qui inhibe la voie NFKB, donc la voie pro-inflammatoire. Donc tout ce qui est anthocyanine notamment, donc les myrtilles, c'est génial. Moi, je suis un gros consommateur de myrtilles, stop. Je parlais aussi des choux, notamment tout ce qui est crucifère. Les crucifères, dans le crucifère, tu as un puissant anti-inflammatoire qui s'appelle le sulforaphane. C'est le plus puissant activateur de la voie anti-inflammatoire qui est connue, donc la voie NRF2. Sulforaphane, moi je suis un gros consommateur du chou kale. Je ne sais pas si vous en consommez, vous les gars, chou kale.
Bon.
Très très bon, genre en termes de goût et en termes de. Voilà, le sulforaphane, c'est, je veux dire, un des plus puissants activateurs anti-inflammatoires qui existent. Donc pour moi, ça doit faire partie d'une alimentation pas quotidienne, mais voilà, quasi, quoi. Si tu veux vraiment avoir une alimentation hautement anti-inflammatoire. Ensuite, un grand classique. L'huile d'olive, ouais. Notamment dans l'huile d'olive, tu as ce qu'on appelle l'oléocanthal. Je ne sais pas si vous connaissez le cantal, qui est un inhibiteur en fait des COX, donc, qui sont des radicaux libres assez connus. Il y a d'ailleurs pas mal d'études qui ont fait des comparaisons entre l'oléocanthal et des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et on a vu dans certaines études en fait que parfois l'oléocanthal en fait était aussi bon, voire même meilleur que l'ibuprofène par exemple, à forte dose. Donc l'avantage de l'huile d'olive, c'est que tu peux en consommer en bonne quantité sans effet secondaire, alors que l'ibuprofène, bon, pas top. Alors je dis pas qu'il faut remplacer tous ces anti-inflammatoires par de l'huile d'olive, je dis pas ça. Je dis juste que des études ont montré que ça peut avoir un effet comparable, donc en termes de juste du côté anti-inflammatoire. Donc si aujourd'hui vous pensez avoir un niveau de stress oxydatif ou un niveau inflammatoire assez élevé, l'huile d'olive extra vierge de qualité, donc vous savez, bio, première pression à froid, etc. C'est pas du bullshit, hein, c'est vraiment une super huile. Hein. Et d'ailleurs, si c'est un des piliers du régime méditerranéen, c'est pas par hasard. C'est vraiment une super, super huile.
Donc la molécule,
Donc.
c'est que tu nous as dit, c'est un polyphénol.
Ouais, ça, l'oléocanthal, ouais, tout à fait.
Donc l'huile d'olive, est-ce qu'il y a d'autres
Ouais,
éléments?
après, il y a le fameux thé vert, hein, qui est connu au Japon, avec le GCG. Alors, j'essaie de le dire, c'est épicalocatéchine 3-galate, je crois. Je suis
Bon,
lésé.
tu t'es entraîné là.
Bon, après, c'est la force, je connais un peu. Mais pareil, qui est un activateur anti-inflammatoire très puissant. Bah, vous savez, hein, les Japonais, alors, ils ont cette réputation d'avoir un très bon niveau de longévité pour plusieurs raisons. On va en parler après, notamment avec les oméga-3. Mais la consommation régulière de thé vert peut faire partie en fait de l'équation, quoi, clairement. Une consommation régulière de GCG est plutôt intéressante, quoi. Alors pareil, hein, EGCG en quantité physiologique, parce que pareil, j'ai fait une vidéo il y a longtemps. J'ai fait une vidéo il y a longtemps d'un Américain qui avait pris des compléments alimentaires de GCG. Et c'était dramatique, il avait niqué son foie en fait, quoi. Parce que justement, il avait pris des quantités non physiologiques, des quantités sous forme de compléments alimentaires, mais des quantités. Voilà, il s'était dit, comme c'est bon pour la santé, je vais en prendre beaucoup. Comme ça, je vais niquer tous mes radicaux libres. Bah non. Bah, du coup, il a niqué son foie. Et du coup, il a dû avoir une transfusion de foie. Donc, c'est pas pour faire peur, hein, mais c'est genre vraiment les compléments alimentaires d'antioxydants, faut vraiment faire gaffe en fait. Donc le thé vert, donc dans des conditions un peu thérapeutiques, même si j'aime pas ce mot-là, en fait, on considère que 3 à 4 tasses par jour, c'est bien. Ensuite, il y a le curcuma aussi, qui est un des plus puissants anti-inflammatoires connus, avec la curcumine. qui inhibe la voie aussi NFKB, donc la voie pro-inflammatoire. Alors attention, parce que la curcumine, en fait, elle n'est pas de base très biodisponible. C'est pas un truc genre que le corps assimile très bien. Donc, il faut donner un petit coup de main. Et pour ça, en fait, tu as deux façons de faire, une qui est bien, une qui est pas bien. La façon qui est bien, c'est de consommer la curcumine avec des gras, en fait, des formes, ce qu'on appelle des formes liposomales. C'est-à-dire en fait que c'est entouré de gras en gros. Donc, c'est-à-dire que si jamais tu mets de la curcumine sur ta salade, par exemple, c'est bien d'ajouter de l'huile d'olive pour aider en fait l'assimilation de la curcumine. La mauvaise façon de faire, c'est d'ajouter du poivre, parce qu'en fait, le poivre a cette capacité d'augmenter la perméabilité intestinale. Donc du coup, ça permet de mieux assimiler la curcumine. Mais le côté néfaste, c'est que ça augmente la perméabilité intestinale. Et déjà, beaucoup de personnes, déjà de base, dans le monde occidental moderne, a une perméabilité intestinale qui n'est pas folle, en fait. Quoi.
Donc, on peut associer dans des compléments, hein, les deux, là.
Alors, il ne faut pas prendre des compléments de curcumine avec poivre noir. Uniquement la forme avec du gras.
Voilà. Et pourquoi ? Parce que la curcumine, c'est une molécule grasse, du coup, liposoluble ?
Non, c'est juste que tu vois, tu as pas mal de molécules, enfin de compléments comme ça qu'il faut prendre avec du gras. Ça améliore, en fait, leur biodisponibilité. Alors c'est pas que c'est une forme qui est grasse, en fait, c'est que juste alors j'ai pas l'explication technique précise, mais ça, moi, l'expérience montre clairement que la forme liposomale, en fait, est entourée de lipides, permet d'avoir une meilleure biodisponibilité, clairement. Okay. Donc t'as pas mal de compléments alimentaires de curcuma, en fait, qui sont justement sous cette forme là et je recommande, et éviter avec le poivre noir, ça c'est vraiment pour moi problématique.
D'autres choses dans l'alimentation rajouter.
Tu parlais des noix tout à l'heure, effectivement, tout ce qui est noix et amandes, c'est top, parce que du coup, tu as tout ce qui est les cofacteurs intéressants qu'on a vu tout à l'heure, notamment la vitamine E, par exemple, le sélénium, qui s'en trouve dans les noix du Brésil.
Une poignée par jour, c'est bien, voilà. En termes de recommandation.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Tu as l'ail et l'oignon aussi, qui sont des super aliments qui aident à la synthèse du glutathion. Tu sais, le glutathion, on a parlé tout à l'heure, un des principaux antioxydants du corps. Parce que du coup, en fait, le glutathion, c'est trois grandes molécules, c'est cystéine, acétylcystéine, cystéine, il y a la glycine et un autre que j'ai oublié. Bref, et du coup, dans l'ail et les oignons, en fait, du coup, t'as un des précurseurs essentiels du coup de glutathion. Voilà, c'est la base. Et puis je mettrai en top priorité quand même. J'ai mis à la fin, mais pour moi, la fin arrive en premier. Enfin, genre le meilleur pour la fin, c'est les oméga 3. Pour moi, les oméga 3, c'est fondamental et on est tous en carence d'oméga 3. Pour lutter contre l'inflammation chronique, ça, c'est vraiment fondamental. Et les sportifs, notamment, sont souvent carencés en oméga 3 aussi.
Donc, on consomme combien alors ? On fait quoi par semaine ? C'est quoi les recommandations ? Trois fois ?
Alors, ça va être, on dit souvent, il faut consommer deux à trois fois des poissons gras par semaine. Oui, c'est bien, mais pour moi, c'est pas suffisant. C'est pas du tout suffisant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en parallèle, on consomme beaucoup d'oméga 6. Et qu'en fait, il y a une concurrence entre les oméga 3 et les oméga 6. En fait, en gros, pour pouvoir être bien assimilé, le corps a besoin, en fait, de faire des conversions, en fait, et quand tu consommes des oméga 3 en végétaux, par exemple, ce qu'on appelle les ALA, le corps doit les convertir en EPA DHA, mais, les oméga 6, c'est pareil. En fait, il y a des conversions à faire. Et en fait, t'as qu'un seul jeu d'enzymes, en fait, qui permet de faire ces conversions. Et quand tu consommes beaucoup d'oméga 6, du coup, ces enzymes de conversion, elles sont occupées avec les oméga 6, on va dire. Et donc, elles délaissent les oméga 3 pour faire très, très simple. Et donc, gens qui me disent, moi, je consomme des oméga 3, du coup, je consomme des graines de chia, des graines de lin. Non, ça sert à rien. Je dis pas que ça sert à rien, parce que les ALA, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Et la consommation de deux ou trois poissons gras par semaine n'est pas suffisante comparativement à la quantité d'oméga 6 qu'on consomme. En fait. Et comme les oméga 3 oméga 6, c'est un ratio, hein, en valeur absolue, c'est pas hyper intéressant. C'est ce qui compte avant tout, c'est le ratio, c'est l'équilibre relatif. Il faut consommer beaucoup d'oméga 3 et là, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est pour moi des compléments alimentaires. Quoi.
Et donc, on l'a compris. Ah, ok, des compléments alimentaires. Mais comment on fait donc si on veut diminuer, pour nos auditeurs, ils disent, mais ils parlent d'oméga 6, qu'est-ce que je fais justement pour diminuer ma quantité d'oméga 6 au quotidien ?
Éviter tout ce qui est produit ultra transformé, ça c'est à la base, hein, parce que c'est un bestiaire à choses négatives, dont des oméga 6. Attention aux céréales, au soja aussi. Même paradoxalement, les oléagineux. Hein. Les oléagineux comme les amandes, les noix, etc., sont plutôt riches en oméga 6. Donc. T'as des oméga 3, mais t'as aussi des oméga 6 dedans. Donc, tu vois, les pistaches, par exemple, tu vois, c'est très riche en oméga 6. C'est riche, okay. Il y a des oméga 3, il y a beaucoup d'antioxydants dans les pistaches, mais aussi beaucoup d'oméga 6. Donc, tu vois, c'est pas si simple en fait. Donc pour moi, la consommation d'oméga 3 via des compléments alimentaires, elle est dans notre monde moderne, elle est quasiment inévitable en fait. Si demain vous me dites je déménage au Japon, c'est une autre paire de manches, parce qu'au Japon tu vas manger du poisson gras quasiment tous les jours, et du poisson gras en plus pas cuit, poisson cru. Or les oméga 3 sont sensibles à la chaleur. Donc là, c'est OK, toi. Si demain tu me dis je déménage au Japon, c'est plus la peine de te complémenter en oméga 3, tu peux arrêter. Par contre, si tu habites en France, en Belgique, etc.
Ouais, oui, ou alors il faut vraiment manger des sardines 3-4 fois par semaine, quoi.
Ben, je te dis, même pas, c'est peut-être pas forcément suffisant, en fait. Hein.
Ouais, tant que ça, même 3 fois, 4 fois.
Je te donne un exemple. Ouais, c'est ça, t'as raison, Vincent, c'est que les oméga 3 déjà sont sensibles à la chaleur. Donc, si tu manges des sardines, c'est OK, parce que normalement, les sardines, tu les manges pas cuites, tu vois, tu les prends directement dans la boîte. Mais si quelqu'un me dit, bah, tiens, j'ai mangé un saumon ce week-end, mais ouais, le saumon, tu l'as mis au four pendant combien de temps, en fait, quoi? Les oméga 3, ils sont pris super cher. Et le saumon, ça faisait combien de temps qu'il était dehors aussi? Enfin, bref, toi, c'est compliqué. Hein. Pour te dire, toi, moi, j'ai fait un test récemment, j'ai fait mesurer mon ratio oméga 6, oméga 3. Je suis un bon consommateur de sardines, je me complémente quasiment tous les jours en oméga 3, et j'ai un ratio de 3 pour 1. Ce qui est bien.
Ce qui est bien.
Ce qui est bien, mais pas excellent. Mais 3 pour 1, c'est bien, on va dire. Clairement, c'est dans la zone vraiment bien, en fait. Là-dessus, si tout le monde pouvait être à ça, on aurait beaucoup de problèmes de santé. Mais c'est pour te dire que, toi, malgré que je consomme peu d'oméga 6, beaucoup d'oméga 3 via la complémentation des poissons gras, je ne suis que à 3 pour 1. 3 oméga 6 pour 1 oméga 3. Donc, imagine quelqu'un qui mange rarement du poisson, qui se complémente pas en oméga 3, il peut avoir facilement un ratio de 10 pour 1, voire de 15 pour 1. Donc, c'est vraiment une balance pro-inflammatoire vraiment marquée, quoi.
Est-ce que tu peux rentrer dans le rôle des oméga 3 là, parce qu'on a bien compris les oméga 3, mais finalement, c'est quoi leur rôle dans tout ce processus inflammatoire?
Ouais. Alors en fait, donc tu as la famille des acides gras essentiels, donc qui contient notamment les oméga 3, oméga 6. Pour faire très simple, les oméga 3 sont plutôt des précurseurs de molécules anti-inflammatoires. Oméga 6, précurseurs de molécules pro-inflammatoires. Et faut pas dire en fait les uns sont mieux que les autres en fait. Hein. Oméga 3, oméga 6, les deux sont indispensables. C'est ça qu'on dit, qu'on sont les acides gras essentiel dans le sens où on peut pas s'en passer, c'est forcément via l'alimentation qu'il faut en avoir. Donc, par exemple, tu vois, les oméga 6, ils sont importants quand tu as une phase inflammatoire, tu vois, typiquement une phase où tu as une bactérie, un virus, il faut de l'inflammation. Donc les oméga 6 jouent entre autres à ce niveau-là. Donc il faut avoir des oméga 6. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les oméga 6, on en a en quantité astronomique via l'alimentation moderne. Là-dessus, il y a aucun problème d'en avoir, personne n'est en carence d'oméga 6. Par contre, les oméga 3, c'est compliqué. Parce que les oméga 3, en fait, on en trouve que dans. Enfin, il y a deux familles, les oméga 3, il y a les EPA-DHA et les ALA. EPA-DHA, on en trouve que dans le monde animal, même si dans certaines algues, on peut en trouver, mais pour faire simple, on va dire que dans le monde animal. Et pour en avoir, en fait, il faut que l'animal ait mangé de façon physiologique. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait mangé ce pour quoi il est prévu. C'est ce que tu disais un peu tout à l'heure, Vincent, la façon dont les animaux la façon dont c'était élevé, là, ça fait vraiment sens parce que, tu vois, si tu prends une vache, par exemple, tu manges un steak, bah, si cette vache que tu manges, elle a mangé toute sa vie de l'herbe, elle va avoir pris les ALA, donc de l'herbe, elle les a convertis en EPA-DHA dans sa chair, que tu vas manger ensuite. Donc là, c'est cool. T'as eu des oméga 3 via l'alimentation, via la viande. Par contre, si t'as cette vache, elle a mangé des tourteaux de soja. Elle a mangé de façon industrielle parce que du coup là où elle a grandi en fait c'était un élevage intensif où les animaux sont vendus au poids et on sait que l'herbe ça fait pas prendre du poids aux animaux, par contre les tourteaux de soja ça leur fait prendre du poids, plus l'animal il est obèse plus on peut le vendre cher, donc là c'est intéressant pour les vendeurs d'animaux, donc c'est pour ça qu'en fait en général les animaux sont nourris avec des composés qui sont pro-inflammatoires, hein, riches en oméga 6. Et au final, bah, ces composés oméga 6 se retrouvent dans la viande et donc se retrouvent dans ta chair, enfin dans ce que tu manges. Et clairement, bah, du coup, ça fait un environnement inflammatoire. C'est pour ça qu'on dit que la viande, c'est pas bon pour la santé. Ben, ça dépend en fait. Ça dépend de quel type de viande on mange. Est-ce que c'est une viande industrielle ou une viande qui est issue d'un animal qui a vécu toute sa vie dans son environnement naturel? Et chose d'ailleurs qu'on va retrouver avec les poissons aussi, tu vois. Les poissons, tu manges une sardine. Sardine, normalement, il n'y a pas d'élevage de sardines, c'est que des sardines sauvages. Donc la sardine a mangé toute sa vie de façon physiologique, du plancton, etc. Par contre, tu prends un saumon d'élevage. À quoi il était nourri le saumon d'élevage dans sa piscine? Il était nourri avec des farines, avec du soja, etc. Et là, pareil, du coup, c'était des composés riches en oméga 6, donc plutôt pro-inflammatoires. Et donc, sa chair va être moins riche en oméga 3. Donc, Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, je me suis un peu divagué. Mais...
est-ce que ce ratio oméga 6, oméga 3, il joue aussi sur la qualité de notre membrane cellulaire ou pas particulièrement ? C'est vrai que là, on parle d'anti-inflammation, mais il y a aussi ce rôle de la membrane qui peut être important au niveau hormonal, même au niveau peut-être d'autres fonctions. Est-ce qu'il y a un intérêt justement à faire attention à ce ratio pour cette santé membranaire ?
Ah, complètement. La membrane des cellules, et en particulier tout ce qui est membrane des cellules du cerveau, dont les neurones, sont extrêmement riches en oméga 3. Donc, tu vois, par exemple, une maman qui est enceinte a d'autant plus intérêt à se complémenter en oméga 3 pour aider justement le cerveau de son futur bébé à être en bonne santé. Parce que quand elle mange des oméga 3, donc via les poissons du quotidien, si elle mange du quotidien de la semaine, on va dire, bah, du coup, elle partage les oméga 3 entre elle-même et son bébé. Donc du coup, toi, c'est encore pire en fait dans ces cas-là, quoi. Donc clairement, il faut se complémenter si t'es une femme, t'es enceinte, complémente-toi, c'est d'autant plus important, quoi. Et oui, pour la santé cellulaire, pour la plasticité de la cellule, on va dire, hein, de la membrane de la cellule, pour plein de choses physiologiques en fait dans le corps, c'est incroyable. Moi, je suis un très grand défenseur de l'oméga 3 depuis quasiment maintenant, enfin plus de 10 ans. Je me bats en fait pour que les gens se complémentent en oméga 3. Pour moi, ça devrait être la complémentation.
Donc, on a quand même été assez complet sur le sujet. On a vu l'importance des oméga 3. On a déjà parlé dans le podcast. On a d'ailleurs fait des épisodes dessus. Donc, pour finir, donc on a parlé de ce qu'il fallait faire au niveau de l'alimentation. Donc, tu as parlé justement du chou, des myrtilles. Tu as dit pas mal de petits conseils pour nos auditeurs. Et au niveau de la complémentation, tu as dit qu'il fallait faire attention. Donc, quelle serait ta recommandation ?
Ouais, non, je mettrais en top 1. Bah, j'en parlais à l'instant, les oméga 3. Pour tout le monde, en particulier les sportifs. Il y a plein d'études qui démontrent que ça améliore la récupération, l'endurance et la force, notamment chez les personnes, enfin, chez les masters, les gens qui, un peu comme moi, qui commencent à prendre un peu d'âge et qui continuent à faire du sport. Donc, oméga 3, hyper important toute sa vie. La vitamine D aussi, hyper important. Je crois que c'est 80% de la population qui est en carence. Et chez les sportifs aussi, il y a des besoins qui sont vraiment importants. Donc, la base, on dit souvent, c'est entre 1000 et 4000 nuits par jour. L'entretien, moi, je serais plus dans les doses autour de 6000 nuits pour être vraiment tranquille et pour assurer une parfaite santé. En fait, la vitamine D intervient sur plein de processus. Le côté anti-inflammatoire, ça intervient pour le cerveau, ça intervient pour... En fait, la vitamine D, c'est quasiment une hormone. En fait, c'est tellement important que on parle quasiment de vitamine hormone, en fait. Donc, et vu que tu as une très grande partie de la population qui est en carence, avec toutes les conséquences que ça a sur la santé, pour moi, la complémentation, notamment l'hiver, elle est indispensable. Et d'ailleurs, toi, pareil, hein, je me suis fait tester il n'y a pas très longtemps. Je suis en dose... Je me complémente et j'habite au soleil. Et je suis sur des niveaux normaux, pas optimaux. Donc, tu vois, je me dis, il y a des gens qui ne se complémentent pas. C'est catastrophique, en fait. Ils sont dans des zones rouges, en fait, quoi. Donc, pour la vitamine D, c'est vraiment hyper important. On parlait des cofacteurs aussi plus tôt. Il y en a un qui est hyper important. Un des plus connus, c'est le magnésium. Je crois que c'est plus de 300 enzymes de mémoire qui sont directement liées au magnésium pour leur synthèse. Donc, ça intervient pour le sommeil, pour les sportifs, pour la partie récupération, c'est hyper important. Hein, la récupération neuromusculaire, le magnésium, super important. Ça aide aussi pour la décontraction musculaire. Donc, les gens qui ont un peu de mal à dormir le soir et tout, ça peut pas te donner un petit coup de main. Donc, le magnésium, bisglycinate notamment, hyper intéressant. Donc, ça pour moi, c'est un des meilleurs cofacteurs. Il faut, pareil... Dans le doute, faites un test, mais je suis quasiment sûr que la plupart des gens sont en carence de magnésium. Surtout qu'en fait, le magnésium aussi, il est un peu pompé par les glandes surrénales, et notamment pour la synthèse du cortisol. Les glandes surrénales ont besoin de beaucoup de magnésium. Or, comme beaucoup de gens sont stressés chroniquement, bah, du coup, ça fait une pompe à magnésium. En fait, ces gens perdent du magnésium via le stress, on va dire, quoi. D'où l'intérêt de se complémenter. En autre complément anti-inflammatoire, bah, je mettrai la curcumine. Parce que comme j'expliquais, pour moi c'est un des meilleurs compléments sans effet secondaire. Il n'y a pas d'effet secondaire qui a été étudié sur la curcumine. En complément alimentaire, ça fait vraiment sens, notamment dans sa forme liposomale. Et voilà, donc éviter le classique curcumine plus poivre vert. Comme j'expliquais, c'est pas forcément le meilleur combo, quoi. Et puis je mettrai aussi la CoQ10. CoQ10, pour moi, c'est surtout super important pour la santé de la mitochondrie, notamment quand on prend de l'âge. On en parlait tout à l'heure, Vincent, tu bien rappeler aussi que effectivement en prenant de l'âge, on en perd. Donc, hyper important pour accepter la mitochondrie. Donc, moi, je dirais dès 35 ans, même si officiellement, c'est à partir de 45 ans, moi, je dirais dès 35 ans, c'est fait vraiment sens, quoi. Astaxanthine aussi. C'est pas une recommandation que je donnerais sur astaxanthine, parce que je suis moi-même en train de tester actuellement ce complément, mais c'est un des compléments anti-inflammatoires pour moi les plus prometteurs, entre guillemets. Donc on pourra faire un prochain épisode dessus si vous voulez. Je vais commencer déjà à complémenter dessus pour voir un peu ce que ça fait, mais a priori c'est vraiment hyper intéressant et ça ne perturbe pas les processus physiologiques du corps, hyper important. Et puis par contre en complément, faut faire attention, vitamine C et vitamine E en forte dose, comme je l'expliquais, c'est vraiment attention quoi. Pareil pour le resveratrol, on peut en trouver facilement dans le commerce. Resveratrol, vitamine C, vitamine E, je mettrai des bémols parce que là, par contre, ça attaque directement le stress oxydatif. Ça attaque les radicaux libres et là, du coup, bof, quoi. Ça enlève les capacités hormésiques du corps. Donc, voilà pour moi les principaux compléments alimentaires que je recommanderais.
Et faites-vous accompagner. Il y a des spécialistes qui peuvent aussi vous aiguiller. Soyez à l'écoute de vos sensations, de voir quelle complémentation vous fait du bien. On n'a pas parlé du sucre, quand même, toute cette voie de l'insuline. Elle est concordante avec la voie de l'inflammation, la NF-kappa-B. Il y a vraiment un lien aussi avec cette charge hyperglycémique dans notre alimentation qui va venir entretenir cette voie de l'inflammation.
Tout à fait. D'ailleurs, j'en parle dans mon bouquin. J'ai fait une longue partie là-dessus, en fait, où j'explique que l'hyperinsulinie, en fait, est inflammatoire. Là aussi, c'est un peu du bon sens. L'insuline, en fait, elle a pour boulot, en fait, de réguler la glycémie, mais de façon ponctuelle, en fait. On n'a pas vocation, en fait, à avoir l'insuline en permanence dans le sang, en fait, quoi. Et le problème, c'est que quand c'est le cas, on se rend compte que ça perturbe les cellules, ça perturbe, en fait, la détection, en fait, pas mal de processus de détection autour de la cellule, en fait. Et ça augmente aussi l'inflammation. En fait, c'est un cercle vicieux, en fait. C'est-à-dire que l'hyperinsulinie, en fait, augmente l'inflammation et l'augmentation de l'inflammation diminue la sensibilité à l'insuline des cellules. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux qui se met en place. Et même la matière première, hein. C'est-à-dire que la base, on ne devient pas résistant à l'insuline du jour au lendemain. C'est via la consommation excessive de glucides. Et ces glucides eux-mêmes sont pro-inflammatoires lorsqu'ils sont trop présents dans le corps, lorsqu'on en consomme trop, notamment lorsqu'on a on consomme des aliments à IG élevé, hein, parce qu'on a vu ça augmente ce qu'on appelle les AGE, les composés de la glycation. Et voilà.
Et au niveau de la nutrition du sportif, ça me fait penser à ça, parce que c'est vrai que pour préparer cet épisode, j'ai lu le livre de Denis Richer qui parle d'une étude justement où il comparait deux types de sportifs, donc un qui allait consommer des glucides pendant l'effort et un qui n'allait pas en consommer. Et ben forcément, celui qui allait consommer des glucides allait produire moins de stress oxydatif que celui par contre qui n'allait pas en consommer. Donc c'est vrai que des fois on a des recommandations où on va dire aux gens ben ça va être intéressant de pas trop consommer de glucides, de faire attention. Mais de notre côté, on a ce stress oxydatif qui va augmenter. Est-ce que le mieux, c'est pas de jouer un peu avec les deux et de varier ses entraînements et toujours d'avoir du bon sens, comme on l'a dit dans cet épisode-là?
Tout à fait. Et ce qu'il faut, en fait, là-dessus, je te rejoins à 100%, c'est en fait jouer un peu avec les deux, c'est en fait activer sa flexibilité métabolique. Le problème, c'est que si jamais tu vas consommer trop de sucre au quotidien, parce que toi, t'es gourmand, parce que t'es sportif, c'est que tu vas en fait déshabituer ton corps en fait à tirer parti de la filière lipidique, qui est pour moi nécessaire aussi, en fait. C'est-à-dire que ton corps doit être flexible. Il doit pouvoir en fait migrer de l'une à l'autre. Et ça, en fait, ça ne marche que si jamais en fait tu le forces à le faire. Donc, par exemple, de faire des jeûnes intermittents de temps en temps, ça fait vraiment sens. Ça, en plus, au-delà du côté hormésique, ça permet en fait aussi à ton corps de dire bon, ok, là, j'ai plus de glucides pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours pour ceux qui font vraiment des gros jeûnes. Du coup, le corps doit aller taper dans la graisse. Et là, du coup, ça le réhabitue, on va dire, à les taper à changer de filière métabolique, en fait, quoi. Parce que le problème de plus avoir de flexibilité métabolique, c'est que, en fait, ton corps n'est plus capable de tirer parti de ses graisses. Et c'est là, en fait, en général, on peut prendre du poids, on peut prendre de la graisse viscérale, etc.
Super. Merci pour cette petite précision. Est-ce que Vincent, tu as un dernier mot, peut-être pour conclure le podcast, une dernière question, ou ça va, t'es content?
Bah écoute, je suis bien là avec vous. Voilà, c'est parfait. On s'est régalé, Wilfried.
On a juste une question. On a juste une petite perceuse qui est venue se mettre en fin de podcast. On espère que ça ne vous a pas dérangé. En tout cas, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre les 5 étoiles sur Spotify, nous mettre un petit commentaire. Il y aura bien sûr tous les liens de Wilfried en description. Encore un grand merci à toi d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as un dernier mot pour la fin.
Bah, merci les gars pour l'invitation, merci pour la qualité de vos podcasts. Désolé pour le petit bruit que vous pourriez entendre derrière, c'est indépendant de ma volonté, j'espère que ça va pas trop déranger d'écoute. Et voilà, en tout cas, vous avez toujours des bonnes questions, c'est toujours agréable de venir dans vos podcasts, donc bravo à vous.
Eh bien, merci beaucoup. Merci, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous soutenir donc, juste en likant la vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo.
Ciao.